nous avons aujourd'hui le grand plaisir d'accueillir Yann Moulier-Bitant et Antoine Robiscoul. Ils nous ont déjà donné une conférence tout à fait décapante hier soir. On en a d'ailleurs encore des cernes sous les yeux. On a terminé aux petites heures. Alors, ils vont nous parler du capitalisme cognitif que Yann nous a présenté dans les grandes lignes avec Antoine hier soir. Mais ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est vraiment questionner les business models dans une économie sans rareté. C'est fondamentalement ce que nous allons faire aujourd'hui. Alors, pour vous présenter nos orateurs très rapidement, Antoine est philosophe, il a été professeur de philosophie, mais il a très rapidement bifurqué vers l'entreprise pour travailler tout d'abord pour LVMH, dans tout ce qui était valorisation de marque, pour ensuite passer par toute une série d'aventures en termes de conseils, où il a travaillé pour les plus grandes boîtes françaises.
Quelques-unes.
Essentiellement dans tout ce qui touche le goodwill, donc la valorisation des biens immatériels. Il a travaillé entre autres également comme consultant pour Publicis.
Et il est comme salarié.
Comme salarié. Et là maintenant, il relance une nouvelle société de conseil, toujours dans ce domaine, valorisation des actifs immatériels en particulier, mais ça va plus loin que cela également, et qui s'appelle Acte 6.
Voilà, qui est en démarrage.
Qui est en plein démarrage.
Et puis par ailleurs, j'enseigne un petit peu à l'ESSEC, donc une école de management près de Paris, et puis à l'Institut français de la mode, qui est un lieu de formation au métier de la mode, de la création à Paris.
Tout à fait. Voilà. Alors, Yann, lui, est économiste et il a déjà à son actif toute une série de livres tout à fait passionnants, dont l'un des derniers en date est le capitalisme cognitif, la grande transformation. Et il va publier le 7 mai, si je ne m'abuse, le 7 mai de cette année, un nouveau livre qui s'appelle « L'abeille et l'économiste ». Ou l'économie, je ne sais plus.
Non, l'abeille et l'économiste.
Et l'économiste, dont il nous parlera sûrement au travers de cet exposé. Alors, Yann, en fait, est également professeur à l'Université de Compiègne. On forme essentiellement des ingénieurs. Il enseigne des matières telles que l'économie politique, tout ce qui touche au numérique et bien évidemment tout ce qui touche autour de la propriété intellectuelle et de ses transformations. Il enseigne également à l'ESAD à Saint-Étienne,
l'Institut supérieur d'art et design.
Voilà, exactement.
La plus vieille école de ce type française, créée en 1857.
Il a enseigné également longtemps aux États-Unis pour le centre Fernand Braudel. Et je dirais que la question qui l'a animé jusqu'ici et qui continue de l'animer, c'est d'analyser les transformations du capitalisme. Alors, on s'est mis d'accord d'ailleurs pour que je ne demande pas à Yann de faire un bref résumé de ce qu'il a présenté hier, parce que si je le lance, vous allez voir, c'est la Ferrari qui démarre, qui est en 2 secondes à du 200 à l'heure. Et il tient la distance pendant très longtemps.
Ouais.
Donc je vais vous dire en quelques mots,
ce que t'en as retenu.
Ce que j'en ai retenu. Alors, il y a tellement de choses, je ne vais pas m'étendre, mais je voudrais quand même vous dire ceci. Voilà. Prenons simplement l'exemple de Google. Google est valorisé aujourd'hui à 180 milliards.
Bon, alors, comme ça, on peut tout de suite.
Ah bah, oui. Voilà. Ah bah, je vous laisse la parole, c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça.
Bon, le principe, si vous voulez, ce qu'on s'était dit avec Laurent, c'est qu'on va essayer de dialoguer un peu Yann et moi, mais évidemment, ce qui est sympathique, c'est que là, on peut tous interagir aussi. Il se trouve qu'avec Yann, on dialogue ensemble depuis quelques années, on s'est rencontrés il y a quelques années. Moi, je lisais un peu ce que Yann faisait, et j'étais dans le monde un peu des entreprises, comme beaucoup d'entre vous. Et en le lisant, j'étais étonné par l'acuité de ce qu'il disait. C'était la première fois que j'ai rencontré, je dis c'est étonnant que on s'est tutoyé au bout d'un quart d'heure, mais que vous auprès de quelles entreprises vous expérimentez, vous allez voir, parce que c'est étonnant ce phénomène de... Voilà. Alors ensuite, on a continué à dialoguer autour des questions de ce que Yann appelle le capitalisme cognitif.
Bon. Juste un petit point, mais beaucoup de, les économistes ont en général le plus profond mépris pour les gestionnaires. Ils considèrent comme étant des choses appliquées, vulgaires, etc. Bon, l'ennui pour eux, c'est que l'essentiel des 20 problèmes nouveaux de l'économie surgissent justement dans le domaine de la gestion. C'est les gestionnaires qui mettent le doigt sur les questions théoriques fondamentales. Donc il n'y a pas à avoir, et on a pas envie de faire quand j'ai pris la direction de mon labo, c'est que j'ai réunifié immédiatement les gestionnaires, les économistes, des mathématiciens, d'autres gens, parce qu'autrement, on ne voit pas, on n'est plus sur la frontière des savoirs et là où les choses vont. Donc c'est pour dire que l'articulation question terrain et concept théorique complètement abstrait, c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est vraiment
bien. Rapproche peut-être.
Donc on a organisé le propos un peu comme ça. Hein. On va un premier point qui concerne ce que j'ai appelé territoire. Hein. Territoire, c'était au sens à la fois très concret, puis la question du périmètre. Hein. Par exemple, du périmètre d'une entreprise. Hein. Quel est son périmètre? Qu'est-ce qui est dans l'entreprise? Qu'est-ce qui est hors de l'entreprise? Ouais, bon, mais j'y arrive. Voilà. Parce que c'est le premier slide des questions de territoire. Bon. Alors, on commence par un fait qu'on a évoqué hier. Donc, effectivement, au cours d'hier, la capitalisation boursière de Google, hein, c'est la valeur de l'ensemble des actions de Google en circulation, c'est 180 milliards de dollars. Donc 180 milliards de dollars, ça fait un peu moins de la moitié de ce qu'est la première capitalisation mondiale qui est encore, je crois, aujourd'hui Exxon, hein, qui est le grand groupe américain pétrolier, qui est à peu près à 400 milliards. Hein. Donc c'est moins, mais c'est presque la moitié quand même. Mais c'est pas tellement ça qui est intéressant, c'est un truc tout simple, c'est il y a combien de salariés dedans, c'est ce qu'on disait hier. Bon, il y a 18 000 salariés. Alors, 18 000 salariés pour une capitalisation boursière pareille, c'est un peu comme s'il y avait un salarié. C'est très peu, 18 000. Enfin, je pense qu'on trouve qu'ils sont dans des grandes entreprises. Je ne sais pas, moi, par exemple, Publicis, pour qui je travaillais, c'était 50 000 salariés, quoi. Hein, les VMH, c'était 60 000 salariés. Bon. Et encore, ce n'est pas des énormes groupes. Évidemment, si on prend un autre extrême, qui est General Motors, qui est aujourd'hui une capitalisation boursière qui est nulle, hein, par définition, il y a encore 320 000 salariés directs, hein, sans compter les emplois indirects. Alors, la seule question vraiment intéressante, en fait, c'est de se demander il y a combien de salariés indirects de Google, hein, c'est ça. Il y a combien de salariés indirects? Et là, en un sens, c'est en train de devenir, tous les terriens, quoi, un peu. Hein, puisque c'est vraiment un modèle d'entreprise qui est paradigmatique, parce que c'est une entreprise qui tend à se confondre avec l'ensemble d'Internet. L'expérience qu'on en fait chacun, c'est que en utilisant ce Google ou les fonctionnalités de Google, en même temps, on concourt à l'augmentation de l'effet de réseau et puis à l'amélioration des différents rankings de recherche des mots-clés ou des concepts ou des images ou des vidéos, etc., qui passent par Google. Donc on se retrouve avec ce paradoxe-là. Alors, si vous voulez, c'est un peu le cœur du sujet, c'est un peu ça, c'est que dans les représentations qu'on a de ce qu'est le périmètre d'une entreprise, notamment les représentations politiques, quoi, hein, souvent on se représente les choses comme ça, c'est-à-dire il y a... une boîte, et puis il y a des choses qui rentrent, des inputs, il y a un savoir-faire et une productivité qui s'exercent, et puis il y a des choses qui sortent, des outputs. Et puis, on fait un ratio sur les outputs, sur les inputs, etc. Le problème, c'est qu'on est, dans les faits, c'est plutôt cette représentation-là qui est la réalité de ce qu'est, de ce qu'est une entreprise aujourd'hui. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein. Mais vous voyez, la question de l'input, j'ai mis des pointillés, elle est de plus en plus compliquée à déterminer. Quand même, ça devient la question du territoire productif au sein duquel l'entreprise s'inscrit. Bon, alors, c'est vrai que c'est la grande mode en ce moment du développement des clusters, des pôles de compétitivité, de toutes les structures et de toutes les infrastructures qui permettent ce qu'on appelle maintenant au jargon la coopétition. C'est-à-dire cette espèce d'alliage, de tentative de synthèse entre la concurrence et la coopération. Bon, moi, j'appartiens à un pôle de compétitivité français, par exemple, qui est Cap Digital. Vous savez, en France, on a fait ça de façon administrative. Ça, c'est l'État qui a décidé où seraient les clusters, etc., à la française, quoi. Et c'est vrai que c'est assez étonnant, puisque la R&D d'innovation, si vous voulez, qui traditionnellement est très secrète, très confidentielle, parce que c'est vraiment pour les entreprises industrielles, c'est vraiment le cœur de réacteur de la compétitivité, on la voit de plus en plus circuler, en fait. Circuler de façon quasiment publique, hein, hors les murs, si vous voulez. Bon, vous savez qu'un pôle de compétitivité, comment ça marche, hein, ou un cluster, c'est en gros, enfin, vous me dites si j'enfonce des portes ouvertes, hein. Il y a trois ingrédients. Il y a, en général, il y a le monde académique, disons, qui se consacre plutôt au long terme, qui est pas dans des problèmes de conflit d'intérêts, etc. Il y a quelques majors, bon, c'était HP dans la Silicon, au début de la Silicon Valley, par exemple, et puis quelques entreprises très innovantes qui vont mettre en innovation des choses plutôt académiques, très pointues, et puis avoir comme clients les grandes entreprises. Et cet écosystème, c'est ce qu'on pourrait appeler un territoire productif. Bon, mais c'est de façon beaucoup plus banale aussi. Si je dis une banalité, bon, si vous voulez faire une entreprise de mode, vous allez plutôt vous installer dans une métropole plutôt que dans le désert, quoi, hein, parce que vous allez essayer de profiter de toutes les externalités. On va revenir sur ce terme, on a beaucoup parlé hier.
Concrètement, vous allez vous inspirer de ce que vous voyez dans la rue, des écoles d'art avec les gens qui viennent pour éventuellement se faire embaucher, qui des Facebook gigantesques. C'est tout ce savoir qui s'accumule sur un territoire et qui se rencontre de la même façon que le fait que vous ayez tous les gens ensemble qui font les mêmes métiers, qui sont au même endroit, donne des plateformes. Ça peut paraître le contraire, hein, du point de vue de la concurrence, on peut se dire, mais c'est épouvantable, pourquoi ils tous se mettre les uns à côté des autres dans le même endroit? Et bien, c'est le contraire qui se passe parce qu'il y a des fertilisations et à ce moment-là, les gens viennent et les gens trouvent chaussures à leurs pieds à tous les niveaux. C'est-à-dire que c'est là où le luxe ne va pas se fuir les endroits de low cost. C'est-à-dire qu'il va y avoir une espèce de continuum, et c'est évidemment la captation de ce continuum qui va donner la solidité des marchés qui vont pouvoir encaisser des coûts parce que lors des différents aléas du revenu, les gens s'adaptent, etc. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'en réalité, c'est ce qu'on appelle les externalités métropolitaines. C'est le fait que les gens se regroupent, ça glutine et que ça crée des tas de passages.
Ce qui est vieux comme le monde. Hein, quand, si vous êtes commerçant, hein, vous avez plutôt intérêt à vous installer dans une rue qui est déjà commerçante. Hein. Si vous êtes boulanger, vous avez plutôt intérêt à ce qui est à côté de votre boulangerie, un marchand de légumes, un pharmacien, etc., un supermarché, etc. Bon. Donc c'est, c'est vieux comme le monde en quelque sorte, mais ça prend une ampleur. Quoi, hein, parce que ça concerne plus seulement la vie quotidienne des achats des petits commerces, quoi, mais en gros l'ensemble des innovations. Hein, c'est le même de rue commerçant. Bon, ce qu'on appelle un cluster. Donc du coup, ça rend la question de l'input un peu compliquée. Hein, parce que qu'est-ce qui est vraiment de l'ordre de l'input, hein, qu'est-ce qui est vraiment de l'ordre de la ressource que vous allez transformer,
hein. Peut-être un autre critère important, c'est l'imputabilité. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un endroit dans lequel vous ne pouvez pas imputer la création des facilités, des aménités pour l'ensemble des entreprises à une entreprise et dire « Ah, c'est elle qui en profite, c'est elle qui doit financer », là, vous rentrez, voyez, immédiatement dans la question de politique publique et de comment vous financez tout ça
Et finalement, vous avez quelque chose qui est que l'imputabilité devient globale. Elle concerne, au fond, c'est l'outcome, le résultat global, et pas simplement l'output qui compte, c'est l'input global et pas l'input maîtrisé par l'entreprise, contrôlé par elle, et sur lequel elle a des droits de propriété. On voit que ça, c'est très très important parce que, du coup, ça chamboule les concepts classiques de la frontière et du périmètre de l'entreprise.
Vous voyez cette différence entre un output et un outcome. Un output, c'est très simple. Un output, c'est un produit, disons, alors qu'un outcome, c'est un impact. Ça veut bien être un plus qui sera produit. Mais ce qui compte, c'est davantage l'impact, la valeur de l'impact. Alors, je ne sais pas, c'est des problèmes de politique publique simples aussi. Bah, je vous donne des exemples. Moi, j'avais travaillé dessus à une époque, sur des exemples comme ça. Alors, quel est l'output, par exemple, des lycées français? C'est quoi l'output? L'output, c'est le nombre de bacheliers par an. Combien les lycées ça produit de bacheliers chaque année? Alors, ça, c'est l'output. L'outcome, c'est pas ça. Hein. L'outcome, c'est le taux d'insertion dans les études supérieures et la vie professionnelle ensuite, et la vie citoyenne.
Et la classe politique. Et la classe politique.
Oui. Hein, c'est ça l'outcome. Et ce n'est pas du tout la même outil de mesure. Autre exemple simple, là, qu'est-ce que c'est l'output de la sécurité routière? Bon. C'est l'augmentation du nombre de contrôles routiers sur la route. Hein, c'est la capacité, là, en général, la puissance publique à organiser des contrôles routiers. Quoi. Ça, c'est l'output. Mais l'outcome, ce n'est pas ça. Hein. C'est la baisse. Espérons, la baisse du nombre de morts et de blessés sur la route.
Bon. Alors, évidemment, là, mais dans le monde des produits et des services, vous voyez bien que cette différence
entre l'output et l'outcome, elle est de plus en plus forte. Hein. C'est ce que dans le jargon, les gens appellent maintenant l'économie servicielle. Quoi. Hein. C'est une économie dans laquelle il y a, de façon agglomérée, à la fois des biens et des services qui sont vendus ensemble. Bon, alors c'est un peu comme le monde aussi, c'est les histoires de connaissance et de partie, hein, par exemple. Le contrat de conscience, tout ça, c'est vous vendre de l'électroménager, mais puis toujours, vous vendre aussi tous les services d'après-vente, de maintenance, de paie.
Vous vendez une relation plus qu'un produit.
Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est ce qui se passe au milieu.
Hein. Vous voyez, l'entreprise, du coup, je n'ai pas mise en un carré comme une boîte, mais plutôt c'est une espèce de vecteur qui n'arrête pas d'essayer de faire un upgrade, donc dire, monter en compétence. Entre ces deux choses, si on a voté le territoire productif, et puis de l'autre côté, la route. Et cette montée en compétence, en un sens, c'est un peu la clé du problème de l'immatériel, hein, puisque c'est ça qui crée de la dématérialisation. C'est mon enjeu depuis 20 ans à peu près. Bon, j'étais producteur, je suis producteur de quelque chose. Mon problème, c'est de devenir assemblier de différents producteurs. Et puis j'étais assemblier de différents producteurs. Mon problème, c'est de devenir intégrateur de différents assembliers de différents. Et puis je suis assemblé, en fait, c'est de devenir intégrateur, etc. Donc, une espèce, vous voyez, de monter en compétence sans cesse, avec un problème central sur lequel on va revenir, qui est le problème du coût du capital engagé, hein, et de la désimmobilisation que ça implique, et puis une espèce d'absence de bouclage des modèles économiques.
À mon avis, il est censé de comprendre pour comprendre à la fois ce qu'est l'imaginaire en quelque sorte du capitalisme cognitif et puis les questions qu'on peut lui poser. Bon, alors je vais très vite parce que c'est un peu la même chose. Hein. Vous voyez, on est vraiment passé, moi, à mon avis, d'un monde qu'on pourrait présenter comme ça, une entreprise avec des employés à l'intérieur, des fournisseurs de sont vraiment à l'extérieur, et puis des clients qui sont vraiment à l'extérieur aussi. À ce qui est en bas, c'est-à-dire un monde
qui est bien différent, mais qui est vraiment un autre. Avec un périmètre qui est vraiment pointillé, avec des employés qui ne sont plus vraiment dedans. C'est-à-dire qu'il y a toujours deux gens. Même quand ils sont salariés, ils pensent à leur employabilité. Ils ont abandonné l'idée d'une carrière dans la même entreprise. Ils l'ont vraiment abandonné. Donc ils sont à la fois un peu dedans, un peu dehors. Et puis ils sont beaucoup dehors aussi formellement. C'est ce qu'on disait hier. Je vais vous regarder avec Yann les chiffres français récents de la création d'entreprise et auto-entrepreneurs. Et quand vous additionnez les deux, vous arrivez à des chiffres absolument astronomiques pour l'année 2009, par exemple. Vous arrivez en France à 300 000 créations d'entreprise et il y a eu
400 000
auto-entrepreneurs. C'est le nouveau statut que vous avez créé. Donc vous arrivez à peu près 700 000 en même temps. Ce n'est pas les mêmes. Les 700 000 unités à l'échelle d'un pays comme la France en Allemagne, c'est considérable, c'est en moyenne, sachant que le classage français c'est 800 000. Chaque année, chez la France, il y a 800 000 Français. C'est vraiment beaucoup, 700 000.
Je rajouterais juste un point d'éclairage historique. Disons que le non-salariat, si vous voulez, c'est une chose qu'on observe dans la grande crise. Chaque fois qu'il y a une grande crise, 1883, 1902 ou 3, et puis la crise des années 30, on a ce déclin en apparence de la relation salariale qui s'effrite avec des gens qui montent leur propre affaire pour au fond résister, se payer un revenu. Et tout de suite, juste deux minutes. Et bon, alors ça, c'est évidemment le petit péché mignon des cyclicistes. Qui vous disent oui, mais tout ça c'est de la frime, ça ne transforme pas, ça va revenir, dès que la conjoncture ira mieux, les gens vont revenir à des relations stables avec les entreprises, etc. Alors, vous voyez bien que depuis 1975, le marché du travail s'est transformé réellement. Ça veut dire que des choses qu'on avait crues temporaires et qui s'installaient et qui allaient ensuite disparaître, eh bien, n'ont pas disparu. C'est-à-dire que le marché du travail est devenu poreux, que la caractéristique de tas de gens maintenant, c'est je suis un bout dans le salariat ou un pied dans le salariat et un pied en dehors du salariat, ou une période, et puis j'en sors, et puis j'y rentre, et puis j'en sors, et puis j'y rentre. Donc une sorte, comme là, de perméabilité. Vous voyez que pour citer un exemple très simple, depuis 1975, il y a des très grandes entreprises qui ont pris à l'égard non seulement d'ouvriers qualifiés de leur propre staff, mais à l'égard de cadres. Important de l'un, ils ont dit voilà, on t'externalise, on te garantit un certain volume de travail à l'extérieur, en échange de quoi tu vis ta propre vie à l'extérieur, et nous, les relations, c'est plus les relations de salariés et de dépendants, c'est les relations de marché. Bon, et ça, c'est même vrai, puisque Valeo, j'ai vu, moi, de mes yeux, Morin venir expliquer, au fond, son projet, qui est en acte, maintenant, il est parti, mais le projet est passé, c'est tout simplement qu'on va proposer à l'ensemble des usines du groupe en France trois possibilités pour les gens. Soit ils partent à la retraite, j'entends ouvrier cadre, un technicien et même ingénieur, soit ils partent à la retraite, soit ils s'indépendantisent et ils deviennent des micro-sous-traitants avec un certain chiffre d'affaires garanti par an qui se négocie et qui est actuellement un tel et qui peut changer dans le futur. Soit ils s'expatrient dans les usines du groupe pour devenir les seniors, les tuteurs ou les responsables de la mise à niveau des usines en Chine, en Tchéquie ou ailleurs. Et enfin, il ne reste plus en France que les unités de conception et avec des unités dans lesquelles le plus bas niveau de la hiérarchie, c'est l'ingénieur. Et l'upgrading consistant dans ce que les ingénieurs deviennent stratèges, c'est-à-dire une partie des ingénieurs monte à un niveau au fur et à mesure que l'ingénieur banal et standard, la Chine en produit par an autant que le reste du monde, il faut requalifier les ingénieurs de l'entreprise. Donc vous voyez, c'est un mouvement extrêmement important de transformation à l'interne de la relation salariale qui n'est pas simplement la fuite vers le secteur abrité, pseudo-abrité, du petit commerce ou du travail pour son compte. Donc là, je pense qu'il y a une transformation structurale. Bon.
En fait, le professeur Guettin nous a expliqué ici d'ailleurs que les notions de job et de carrière sont des notions qui ont été inventées pour les besoins d'introduction industrielle.
Oui.
Et que ce temps-là est terminé et que les jobs vont partir, en revue de ces notions, vont disparaître pour un titre qu'elles sont apparues.
On va sûrement aller beaucoup plus dans un système de contribution dans le monde d'hier que de métier ou de job. Alors évidemment, le problème, c'est que.
C'est une transition qui est un peu compliquée. Quoi. Bon.
Vous le voyez aussi, mais dans les formations de l'emploi, hein, un truc qui est tout bête à dire, mais la présentation se fond plus entre d'un côté le fait d'être en emploi et de l'autre côté le fait d'être au chômage, de façon binaire, vous savez, comme le 1-0 du codage. Vous êtes soit dedans, soit dehors. Bon, pas du tout. Maintenant, vous voyez bien cet immense continuum très complexe qui s'est créé entre le chômage de masse, avec des gens qui sont même hors du chômage,
qui ont même renoncé à être chômeurs, qui sont carrément exclus, quoi.
Des gens qui sont chômeurs de longue durée, des gens qui sont chômeurs intermittents, des gens qui sont intérimaires, des gens qui sont en CDD, des gens qui sont freelance, soit choisis, soit subis. En général, chez les freelance, c'est l'un ou l'autre.
C'est-à-dire, soit c'est des stars qui se mettent à capitaliser sur leur propre tête plutôt qu'à être salariés, exploiter comme salariés, soit des gens qui n'ont pas le choix et qui subissent en quelque sorte le statut de freelance. C'est un peu l'un ou l'autre. Voilà. Et puis, y compris à l'intérieur du salariat,
je n'y reviens pas, mais la relation salariale se développe du tout sur le mode d'une pérennité.
Bon.
Peut-être.
Ultérieurement. Sinon, il va se.
J'en profite, mais sur la question justement des intermittents du spectacle. Moi, j'ai dirigé la grande enquête qu'on a faite à la demande de la Coordination nationale des intermittents en 2004. Et on a eu des éléments extrêmement intéressants sur la formation du revenu, le temps. C'est un questionnaire très lourd de 147 questions qui avait 7 heures de passation et qui a ramassé une information fabuleuse qui a d'ailleurs été partiellement qui est disponible sur le web. Si vous voulez, vous avez aussi de la coordination et vous trouvez le rapport. Puis il y a eu 2 livres qui ont été faits. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit de quoi ? Que la condition d'intermittent, qui est tellement spécifique en apparence, hein, puisque le spectacle vivant, les acteurs et tout ça, tout le monde se dit, mais c'est un monde. Différent du reste. Bah, on s'aperçoit que, par exemple, dans ce monde, la compréhension de ce qu'est le temps de travail, le temps de préparation, le temps d'exécution du travail, le chômage, le loisir est complètement différent, et la notion d'employeur. Par exemple, pour les intermittents, il est clair que le temps de l'exécution de la performance n'est qu'un tout petit morceau de l'activité. Et donc, c'est évident que quand vous êtes dans une société qui vous rétribue à l'output, vous avez fait tant de séances à la Comédie Française, enfin la Comédie Française c'est un mauvais exemple parce qu'ils ont une garantie de revenus et ils sont sociétaires, mais quand vous êtes dans des spectacles, la plupart des intermittents, ils sont payés à la journée, ils sont payés au contrat jour, au temps. Et vous voyez bien que le temps de répétition, le temps de préparation, le temps de upgrading de sa propre compétence est la principale chose qui les occupe, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs ils ne veulent pas d'un emploi d'un seul employeur. Parce que comme ils le disaient, on leur demandait, mais votre rêve, c'est pas de devenir au fond salarié classique, bien confortable, il disait, si c'est pour avoir la garantie qui représente un revenu qui tombe tous les mois, oui, c'est évident, mais pour nous, pour notre propre métier, certainement pas, parce que si on reste avec le même employeur, passez-moi l'expression, on devient con. Si on travaille avec un mauvais metteur en scène, ce qui nous arrive de faire pour une raison alimentaire, on est foutu si on reste avec lui. Donc le pluri-emploi est fondamental. Et vous avez aujourd'hui des entreprises qui se plaignent du fait que les jeunes qui arrivent, qu'est-ce qu'ils font ? Ils examinent froidement l'entreprise comme au fond un truc, bon, alors je fais un an et demi avec celle-là, je passe chez telle autre, et qu'est-ce que je maximise ? Je maximise mon cursus, mon CV. Et quant à ma relation avec l'entreprise, nous ne vieillirons pas ensemble. Donc ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'on voit, et alors dans les transformations de revenus que ça implique, c'est fondamental parce qu'en même temps, il y a une précarisation de la condition de revenu de tout ça. Parce que le modèle qu'on a construit le système industriel, c'est que vous avez une relation, non pas à vie, mais extrêmement longue avec l'entreprise, en échange de quoi vous êtes débarrassé de l'aléa de savoir comment vous allez manger le soir et comment vous allez payer votre facture de téléphone et de loyer après-demain ou dans 20 jours. Donc ça, c'est une transformation. Et du coup, vous avez des systèmes qui apparaissent, c'est-à-dire que concurremment, en même temps qu'il y a cette espèce de fragmentation de revenus, si vous voulez sortir l'externalisation,
on s'aperçoit qu'il y a sur le territoire des formes d'apparition de stabilisation du revenu par des mécanismes. Par exemple, les intermittents du spectacle gagnent grosso modo, avec une variation, une variance beaucoup plus forte évidemment que les professeurs certifiés des collèges, mais ils gagnent en termes de revenus annuels à peu près ce que gagne un professeur certifié des collèges. Si vous voulez, un intermittent gagne ce que gagnerait un en salaire, mais c'est son revenu qui, pardon, c'est son revenu, c'est pas son salaire. Mais en salaire, il gagne ce que gagnerait un professeur des collèges si on le payait à l'heure de cours effectuée. Donc il y a un élément de socialisation qui est obligé de s'accroître. C'est-à-dire que toute cette mobilité, ces dashes et ces pointillés que vous avez, qui assurent une espèce de diastole, systole de l'entreprise avec des choses à l'extérieur, ça ne marche que si parallèlement il y a des éléments qui concourent à la stabilisation du revenu. Sinon vous avez des gens qui tombent dans la précarité, la pauvreté et la catastrophe. Parce que dans un monde comme ça, si vous n'avez pas une assurance de revenu derrière, un filet, eh ben le moindre incident, on retombe les cas classiques de pauvreté, hein, le moindre incident lourd, je ne parle pas d'un débat de santé pour nous, ça c'est pas pour les États-Unis, mais le moindre incident lourd fait que vous plongez dans le surendettement, etc. Donc c'est intéressant parce que cette transformation n'a l'air de rien, mais elle commande en matière de RH, mais aussi en matière de politique publique, de construction du système d'indemnisation du chômage, etc., etc. Elle appelle des transformations assez profondes qui sont en fait en train de se passer.
Yann, ça fait écho à ce que Pierre-Michel Menger nous a raconté ici également il y a quelques mois, hein, sur s'accomplir dans l'incertain.
Quelques autres points, hein, mais c'est un peu le même principe. Bon, les fournisseurs, vous avez vu ce qui s'est passé, c'est depuis les années 90, disons. Hein. C'est une espèce de gigantesque outil d'enterprise de source islamique, comme on dit, hein, de type SAP, etc. Ils ont complètement encastré les fournisseurs dans les entreprises clientes. C'est devenu des chaînes de valeur informationnelles. Qui n'arrêtent pas de communiquer entre elles. Hein. Quand vous êtes dans l'industrie aujourd'hui, vous êtes souvent des gens ici dans l'industrie, vous le savez bien, vous êtes au courant en temps réel des variations de stock de vos fournisseurs, parce qu'eux-mêmes sont sur SAP, etc., qui est une sorte de langage commun, hein, qui structure en profondeur l'ensemble des tissus de relations clients-fournisseurs. Bon. Et puis les clients finaux, ils étaient extérieurs, vous voyez, moi je les ai mis un peu comme des employés, parce que le marketing relationnel, hein, a pris le pas en quelque sorte sur le marketing de marque à forte audience. Hein. Ça se voit très bien, ça va y avoir des budgets publicitaires, hein, c'est un inversion en train de se faire. Tout ce qui concerne les métiers de la singularisation de la relation, ce n'est pas forcément les mêmes médias, ce n'est pas les mêmes tactiques de marque, de marketing, etc. Prennent le pas sur, disons, le marketing de grande audience. Et du coup, le client, il se retrouve à la fois pratiquement collaborateur d'entreprise. Alors, le cas extrême, évidemment, dont je parlais, c'est Google, car en fait, on est tous un peu à la fois des clients, des actifs productifs et des collaborateurs de Google, de façon éclaté infinitésimal, mais on le met tous un peu. Mais c'est vrai, d'une façon plus globale, dans la façon que vous avez d'acheter les choses. Hein, vous voyez bien, c'est ce qu'on se disait un tout petit peu aussi hier, dans le panier moyen que vous avez de plus en plus d'achats avec le contrat. Hein, et non pas de biens. C'est-à-dire, vous achetez des abonnements, des forfaits, de la forfaitisation. L'avantage que quand vous allez chez le boulanger, vous avez une baguette.
Hein. Un petit ajout hein, qui est important par rapport à la transformation, notamment que les Japonais ont apporté avec le Just in Time. Vous apercevez que si vous voulez vraiment réduire les stocks et si vous voulez ajuster la production, la vieille économie vous disait il y a un ajustement par les marchés, globalement, ça passe par des stocks, et puis après les stocks se décamponisent, et puis on arrive à peu près à quelque chose. Avec un appareil de production qui tourne, quand il est à 85% de ses capacités de production, c'est comme s'il était à 100%. Bon. À partir du just-in-time, qu'est-ce qui se passe? Ben, quand vous ne produisez plus que ce que vous avez déjà vendu, ce que vous avez déjà commandé, ce qui a été le cas de la révolution de l'industrie automobile, de l'organisation de l'industrie automobile selon les méthodes japonaises, vous vous apercevez que le consommateur il participe directement à la production puisque c'est lui qui détermine le temps de production. C'est lui qui livre l'information clé, c'est-à-dire sur la demande réellement disponible. Donc la captation de cette information devient un élément décisif de la coproduction. C'est-à-dire que le client, il est coproducteur du timing de l'entreprise, des ajustements, de la rationalisation des stocks, du fait qu'il n'y a pas des parkings à Détroit où il y a 3 millions de bagnoles qui attendent d'être vendues, et après on s'adresse aux publicitaires pour les faire vendre. Donc vous voyez que c'est complètement chamboulé, c'est-à-dire que d'un certain point de vue, le consommateur est coproducteur. Alors c'est même vrai, paradoxalement, vous l'avez vu, quand les coûts de production ont commencé à tarabuster beaucoup les chaînes productrices de télévision, qu'est-ce qu'elles ont inventé? Elles ont inventé des systèmes dans lesquels l'essentiel, au fond, de ceux qui produisaient l'émission, c'était le public lui-même, sous la forme des différentes live shows, talk shows, blablabla, non seulement des invités que vous ne payez pas, mais des gens qui se prêtent à une expérimentation, qui sont tout contents de vous rétribuer en renommée télévisuelle, quitte après eux à se démerder pour le transformer en argent, mais vous ne les payez pas. Et c'est allé très loin, puisqu'en matière de droit du travail, là c'est posé le problème, quelle est la relation contractuelle qui existe entre quelqu'un qui participe à une émission de télé-réalité et la personne avec qui signe le contrat. Et les juristes du travail sont en train d'ailleurs de s'intéresser fortement à la question parce qu'ils découvrent que c'est une activité qui n'est pas comptabilisée comme travail par l'entreprise et qui donne lieu souvent à tout sauf des rémunérations et que par conséquent il importe de la comptabiliser. Et là on va se trouver devant le problème que subitement, vous imaginez ce que ça signifie pour les budgets de ces émissions, si les gens qui participent à ces télé-réalités demandent de se faire payer.
Et c'est le cas, puisqu'il y a eu un...
Oui, il y a eu un
cas. Vous avez sûrement suivi, un de mes grands amis qui était l'avocat des plaignants, c'est une quasi-class action, en fait, à la conférence class action, mais ils se sont regroupés, hein, ils ont gagné au prud'homme. Une requalification de leur participation aux émissions au contrat de travail. Hein. C'était des émissions genre Polonka.
C'était assez comique comme dossier parce que c'était assez... Bon, et puis, juste pour terminer, alors, vous voyez, j'ai écrit ça comme ça, pourquoi
parce que c'est pour emblématiser ce qu'est une marque, quoi.
Hein. C'est dans cette histoire-là, évidemment, les marques, j'avais écrit entreprise en noir, on en voulait presque en gris, hein. Là, évidemment, les marques dans ce système deviennent des éléments absolument fondamentaux. Quoi. C'est même un peu les clés de voûte de l'édifice. Hein, puisque...
C'est l'intégrateur qui repose sur une adhésion ou une sensation d'appartenance qui n'est pas l'appartenance juridique stricte définie par un contrat. C'est-à-dire qui est beaucoup plus flou, qui est un halo qui entoure l'entreprise grise qu'on avait là-haut. Et ce halo, évidemment, correspond à la zone la plus fructueuse pour l'entreprise.
Alors après, maintenant, si on avance un peu, bon, du coup, ça crée énormément d'immatériel. Ça crée beaucoup, beaucoup d'immatériel, cette histoire-là. Alors, qu'est-ce que c'est que ce qu'on appelle dans la comptabilité, dans la finance, dans le management, dans la stratégie? Chacun pourrait en donner une définition, enfin, chacun de ses acteurs. On n'en vient pas comme une définition qui n'est pas celle du financier, qui ne serait pas celle de celui qui fait du marketing, qui ne serait pas celle de celui qui fait de la stratégie, etc. Chacun voit midi à sa porte dans cette histoire, mais en gros, tout ça, ça crée beaucoup de faute de mieux. Moi, je n'aime pas le mot parce que je trouve qu'il est vraiment anxiogène et le négatif, c'est tout, ça crée l'immatériel. Ce qu'ils appellent, pardon, c'était un slide d'un autre truc, donc il est et intangible assets. Bon, alors comment est-ce qu'on peut les définir? Moi, si vous voulez, la chose qui m'intéresse dans cette histoire, pour dire un peu comment j'avais travaillé dessus, moi, à une époque, j'avais créé une entreprise d'ailleurs dans Publicis, une filiale qui s'appelait The Goodwill Company. Alors, pourquoi est-ce que ça m'intéressait de travailler là-dessus avec des publicitaires? Parce que d'habitude, bon, dans le langage, dans le jargon, si vous voulez, du management, de la gestion et tout ça, pour définir ces problèmes du matériel, on ne regarde que ça. Hein? C'est-à-dire, on dit, bah voilà, on va faire apparaître alors des nouveaux types de capitaux.
Donc on va faire apparaître le capital marque. Et puis on va dire, ah, ça a beaucoup de valeur.
Après, je vais revenir sur le même contact que ça.
Puis on va faire apparaître le capital humain. Et puis on va dire, des brochures, papier glacé, de miettes de richesse de l'homme.
Vous voyez, on va faire de la communication là-dessus. Bon. Non, on va créer le capital.
Vous voyez, puis on va créer le capital organisationnel. Alors, on va dire, ben, la valeur de ma boîte, c'est dans son intelligence organisationnelle, sa réactivité. Ben, ce n'est pas in the books. C'est-à-dire, ça n'est ni un immeuble, le capital organisationnel, ni une usine, ni un parking. Ce n'est pas une capacité de production tangible, mais c'est pourtant l'essentiel. Et puis on va émettre encore d'autres types de capitaux, on va dire, ah, il y a du capital informationnel. Bon. Ah, puis il y a aussi du capital conscience. Donc, l'entreprise marche parce qu'elle inspire conscience, et, bon, etc. Vous connaissez ce jeu, hein, ce grand jeu depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, hein, c'est-à-dire c'est la création de ce néo-japon, hein, le japon de la nouvelle gouvernance, dans lequel on émet plein de nouveaux types de capitaux. Enfin, vous-même inventez des termes, d'ailleurs, un peu logique. Capital optimiste, optimistant, je ne sais pas quoi, capital d'optimisme de l'entreprise. Bon. Ah, le problème, c'est que, avec tout ça, bon, alors vous voyez, c'est ce que je résume un peu, disant, voilà, mais la marque, la valeur du Customer Relationship Management, hein, du CRM, il y a la valeur de la propriété intellectuelle, il y a la valeur, surtout, c'est un peu le financier qui dirait ça, des convergences qui font apparaître les options futures de convergence et de synergie entre mon entreprise et puis d'autres secteurs d'activité, la valeur du futur, et puis la valeur du capital humain. Mais le problème, c'est qu'on essaye toujours d'attacher, si vous voulez, cette immatérielle à quelque chose qui est à l'intérieur. Hein. C'est comme si c'était un réactif, au sens basique du terme.
Comme si c'était une bourse. Comme si c'était dans les livres comptables.
Oui, comme si c'était une bourse, c'est ça.
C'est dans les livres.
Oui, Google aussi. Il y a dans ces livres comptables. Oui, mais.
Ça compte plus.
Mais non, mais on va y arriver.
Non, mais je suis d'accord, c'est beaucoup dans les livres comptables. Mais il y a une subtilité, comme vous savez, sûrement, hein, dans les normes comptables internationales aujourd'hui, il y a des comptables hyper spécialisés plus pratiquement là-dessus, mais le principe est le suivant, hein, c'est que quand vous êtes vous-même créateur de votre marque, vous ne pouvez pas l'activer. Vous ne pouvez activer une marque à partir du moment où vous l'achetez. Parce qu'il y a eu un prix de marché et vous faites apparaître un goodwill. Mais quand vous êtes vous-même créateur de la marque, en général, vous ne pouvez pas l'activer. Donc quand vous achetez quelque chose, oui, puisque vous faites apparaître une matérielle. Parce qu'il y a vraiment l'écart entre ce qui est in the books et puis le prix de l'actif. Et donc il y a vraiment le goodwill, dans le jargon, le goodwill, un très beau terme. Et la survaleur. Bon, donc le problème, c'est que les gens en général voient assez peu ça. C'est-à-dire le fait que c'est les deux choses qui créent le truc, si vous voulez. Et à la fois, évidemment, vous pouvez rattacher à des facteurs internes et essayer de choséifier, de réifier les immatériels. Mais le problème, c'est que ça se crée beaucoup, finalement, par des phénomènes d'externalité. Alors, je définis externalité, tout le monde n'était pas là hier, tout le monde n'est pas familier. Une externalité, c'est un truc très simple, en fait, c'est l'effet indirect d'une action. Enfin, je schématise atrocement. Hein. Donc, je reprends les trois exemples simples. Quand je mets des fleurs sur mon balcon, ça n'est pas mon intention d'en faire profiter les passants, donc je vous en profite. C'est une qualité positive. Quand j'utilise ma voiture, ça n'est pas mon intention de participer à la pollution, mais de façon infinitésimale, je pollue un peu. Ça a été négatif. Et puis,
d'outils de connectique, quel qu'il soit.
Un téléphone, Internet, la vidéo, etc. Je participe à une fonctionnalité de réseau. C'est-à-dire qu'en entrant dans le réseau, j'augmente la capacité globale du réseau.
Et je suis à la fois, je ne suis pas un consommateur ni un producteur,
parce que je suis dans un monde dans lequel il n'y a que des utilisateurs. Tout le monde est utilisateur, et tout le monde est à la fois utilisateur et coproducteur.
Bon, et donc dans cette économie-là, évidemment il y a des actifs immatériels.
Mais il n'y a pas une entourloupe sur cette question des actifs immatériels, parce que est-ce que c'est davantage le résultat de ce qui se passe in the books et dans les murs, ou bien est-ce que c'est davantage le résultat de convergence entre externalités? D'où ça vient, hein?
Comment est-ce qu'on peut comment est-ce que le phénomène de réappropriation s'opère? Bon. Alors, moi, je vois ça un peu comme ça. Toute cette dématérialisation, ça crée un...
c'est ce que je vois, mais c'est vraiment incontesté. Hein. Je vois ça beaucoup dans les entreprises.
Ce mouvement-là, quoi. Le passage de je parle des grands groupes là plutôt, hein, mais ça impacte toute la chaîne.
Le passage de ce statut-là, disons, d'opérateur, à ce que, à quelque chose qui est un peu différent. Donc, moi j'appelle pour devenir un intégrateur. Bon.
Je vous donne un exemple très simple.
Là aujourd'hui en 2010, vous connaissez Nokia. Nokia, c'était le leader de la téléphonie mobile pendant quelques années. Désormais, vous êtes un opérateur, quoi, hein, de la téléphonie mobile. Et malheureusement pour eux, en quelque sorte. Hein.
Et puis, vous prenez Apple. Apple, évidemment, c'est devenu l'intégrateur.
Et puis, assez rapidement. Hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous
voyez, c'est vraiment une différence de vision du monde assez radicale. Quoi, hein. L'opérateur, sa légitimité, il l'acquiert par l'affirmation de son corps de métier historique et par la capitalisation de son savoir-faire.
Hein, c'est-à-dire, si son centre de gravité, il est plutôt dans son histoire, y compris son histoire récente, hein, sur forcément aujourd'hui, c'est dans des siècles,
mais plutôt dans quelque chose qui est capitalisé. Alors que l'intégrateur, il acquiert sa légitimité par l'envers. Hein, c'est-à-dire,
lui, il est légitime parce que on se dit qu'il va créer des convergences futures entre des besoins, des utilités. Bah, du coup, ça crée quelque chose de d'assez intéressant, c'est que l'opérateur, vous pouvez bien le localiser dans un secteur d'activité. Hein. Alors, vous dites, Nokia, oui, vraiment, c'est un fabricant de téléphone mobile. Quoi. Alors que Apple, c'est un imaginaire qui est beaucoup plus complexe. Hein. Ils sont dans quelle industrie, Apple? Est-ce qu'ils sont dans la haute technologie? Est-ce qu'ils sont dans l'entertainment? Est-ce qu'ils sont dans la publicité? Il y a un peu tout ça. C'est un peu tout. C'est intersectoriel. C'est d'emblée intersectoriel.
Bon. Donc, vous voyez, c'est ce que je définis par positionnement. Hein. C'est-à-dire, c'est inscription dans un secteur d'activité qui répond à des logiques concurrentielles de comparables.
Le problème principal dans les grands opérateurs, c'est d'être comparable par rapport à ce concurrent. Pour des tas de raisons,
et puis d'apparaître comme meilleur qu'eux,
mais de se rendre comparable. Alors que l'intégrateur, il crée lui-même en quelque sorte le périmètre de son secteur. Alors ça a des conséquences financières considérables, évidemment. Hein. Parce que vous n'allez pas du tout avoir les mêmes outils financiers, enfin vous allez avoir les mêmes outils financiers, bien sûr, mais vous n'allez pas évaluer du tout de la même façon une entreprise. Qui est très très bonne en termes de comparabilité, qui s'inscrit bien dans son benchmark, etc. Il y a une entreprise qui, au contraire, fait exploser les critères de comparabilité. Vous n'allez pas l'évaluer financièrement pareil. Vous n'allez pas lui donner la même valeur d'avenir. Et vous n'allez pas du tout lui assigner le même taux d'actualisation. Dans un cas, le taux d'actualisation, c'est le résultat du comparable. C'est la moyenne sectorielle. Alors que dans l'autre cas, non, le taux d'actualisation, à la limite, il est purement conventionnel. Il est purement conventionnel, mais pas comparable. À quoi voulez-vous comparer Google ?
Qui est un peu l'exemple paroxystique
des intégrateurs complexes. Hein ? Parce que, moi j'en sais rien, peut-être dans 10 ans, il ne sera plus, mais on voit bien que Google est de plus en plus présent dans toutes les industries. C'est-à-dire, ça fait à la fois une entreprise importante dans le care, évidemment dans la connaissance, évidemment dans toutes les industries créatives, évidemment, mais oui, mais parce que tout le monde utilise Google tout le temps. Bon, donc,
c'est complètement intersectoriel.
Google peut s'attaquer à créer une plateforme d'usage gratuit, c'est Gmail, c'est le moteur de recherche. Mais Google s'est récemment, probablement parce qu'il savait, il sentait le déficit de services publics rendus, encore qu'il en rende, le service public de l'information. Ça s'appelle le rêve que les États auraient dû créer des moteurs de recherche gratuits s'ils avaient été intelligents, au lieu de faire des portails à la noix comme ont fait les Français. Mais le problème est le suivant, c'est que beaucoup de gens disent « Oui, mais ça, c'est des services gratuits à la personne, mais il n'y a rien du point de vue global. » Et on a vu curieusement récemment, à travers l'initiative Google Flux, la chose suivante, dans ce qui est fondamental dans la façon dont les épidémies reposant sur des rétrovirus se propagent, ce qui est fondamental, c'est la vitesse de propagation, avec les moyens, par exemple, d'avions, des millions de gens qui se trimballent en avion partout, et la capacité, c'est un peu comme les incendies, une épidémie, vous la contrôlez si vous intervenez dans la première ou les trois premières semaines. Après, c'est comme un incendie, après 2 heures, il est incontrôlable. Les 2 premières heures, il est contrôlable, après, vous ne savez plus, vous n'arrivez plus. Donc, Google s'est proposé, de façon très intelligente, au fond, comme le seul, en particulier dans des endroits comme la Chine, qui sont le problème clé dans le déclenchement de ces trucs-là, parce que les politiques de secret, de non-démocratie, entraînent une rétention de l'information qui avait été très forte d'ailleurs dans le cas de la, non pas de la H1N1, mais de la précédente, là, de l'histoire de pulmonaire. Google a expliqué la chose suivante. Le problème, c'est le repérage de l'information en temps réel. Or, la population cherche, la population touchée par des symptômes cherche. C'est ce que signifie ce symptôme sur Google en temps réel. C'est-à-dire, ils vont demander, on va avoir qu'est-ce que signifie cette toux, que signifie ce type de fièvre. Des questions qui vont être posées comme ça, donc des gens qui vont se connecter. Ce qui va permettre de les tracer, de trouver la zone, l'endroit. Et si vous êtes suffisamment rapide et réactif, Google proposait de fournir à l'OMS un tableau en temps réel de ce qui se passe à la surface de la planète en 2 jours. Par rapport au mois et demi dans lequel les organisations qui dépendent de la statistique officielle, laquelle dépend des relations diplomatiques, etc., etc., et des régimes, eh bien, vous voyez que ça change tout. Donc là, vous avez typiquement la proposition d'un service public qui intègre des choses et qui amène des services très, très particuliers et l'unique de la réponse, c'est-à-dire c'est la question du temps réel. Hein, et le mapping de l'information en temps réel est certainement une des ressources non seulement en défense, mais dans le domaine de la santé, dans le domaine du contrôle des épidémies, dans plein de domaines, c'est tout à fait déterminant.
Alors ça, d'ailleurs, c'est directement lié à ce que dit Yann.
Vous avez un peu deux types de productivité très paradoxales. L'une par rapport à l'autre, celle-là qui respecte l'évaluation.
Dans un cas, mais en gros, grosso modo, quoi, hein, vous avez une productivité qui est plutôt intensive.
C'est-à-dire une productivité qui fonctionne par la standardisation, hein, par les économies d'échelle et la création de standards.
Et puis, ça crée un ratio output sur input, etc.
Hein, plus hyper basique.
Même si c'est évidemment toujours plus raffiné, plus compliqué, etc.
Mais le problème, c'est que dans l'autre cas, c'est une productivité qui fonctionne à l'envers par rapport à celle-là. Elle est plutôt extensible. C'est-à-dire qu'est-ce que je veux dire par extensive? C'est-à-dire que le problème, c'est moins la standardisation qu'au contraire la création de fonctionnalités de plus en plus nouvelles et de plus en plus singularisées, qui sont de plus en plus en adéquation avec soit la singularité et la vôtre personnelle, etc., soit avec, par exemple, de ma raison qui
la singularité du problème.
Des questions qui relèvent davantage de politique, de grande politique publique ou d'enjeux très marqués. Ah, évidemment, vous vous retrouvez avec une productivité qui est, pour la qualifier, d'extensive. Et c'est un peu un oxymore, une productivité extensive. C'est une contradiction dans les termes.
Bon, c'est le problème qu'a posé le rapport Taddei, du père et du fils, Dominique et François Taddei, qui ont rendu le rapport pour l'OCDE sur la créativité, l'économie de la créativité, et notamment de l'enseignement. Au fur et à mesure que vous avez des questions complexes à traiter et que vous avez un accroissement phénoménal de la scolarisation à un niveau supérieur des gens, votre problème, c'est que si vous continuez la logique de division classique du travail avec une spécialisation de plus en plus pointue, le coût, ce qu'on appellerait le coût de transaction qui consiste à mettre tout ça ensemble, devient illimité. C'est-à-dire il devient impossible de faire collaborer les gens ensemble à un degré de intensif parce que les intensivités se chassent l'une l'autre. Et par conséquent, vous allez avoir, dans les projets collaboratifs, vous allez avoir une dominance qui va éliminer celui qui est le plus intensif, va éliminer les autres avec lesquels il aura besoin de collaborer. Et donc, dans les dispositifs créatifs, Taddei, père et fils, plaident pour le fait que la logique d'alliance et de coopération l'emporte, et de partenariat, l'emporte sur une comparabilité des qualifications spécifiques. Autrement dit, ça va être la compétence globale de l'équipe formée qui va compter, qui est la chose fondamentale, et ça ne va pas être une addition, un empilement de compétences spécifiques. Et là, on vient à ce que je vous disais hier, pour ceux qui étaient là hier, comment est-ce qu'on voit ça comme système industriel? On voit qu'on abandonne la division smithienne du travail, d'abord quand on travaille sur les petites séries d'économie de variété, dans lesquelles les réponses en termes d'économie d'échelle s'effondrent, ne sont plus bonnes, parce qu'il y a une question de qualité des choses, vous pouvez produire des jeans, le même type de jeans avec une chaîne à 600 000 production 600 000 annuelles, quand vous rentrez dans des jeans différenciés qui sont tachés, déchirés, machin, flagués et tout, c'est fini parce que vous avez des séries sur lesquelles vous vendez pas plus de 100 000 jeans, etc. Donc vous êtes obligé de réorganiser votre production complètement. Et à ce moment-là, il est clair que, si vous voulez, les économies de variété l'emportent, les économies d'apprentissage, et ce qu'il va falloir faire, c'est prendre en compte le coût et le temps d'apprentissage de la coopération des gens ensemble. Et à ce moment-là, on tombe sur non plus une division, j'allais dire top-down, qui sera déterminée objectivement par les degrés de compétences que les ingénieurs vérifieraient, qu'ensuite on vérifierait par un appel d'offres aux sous-traitants, une qualification des sous-traitants par concours, mais on réunit les gens avec lesquels on a l'habitude de travailler, ou en qui on a confiance, ou qu'on a trouvé sur le web. On les réunit et on leur dit qu'est-ce que vous savez faire chacun d'entre vous. Et avec ce que vous savez faire chacun, on va monter un projet. Et donc c'est le célèbre exemple du passage de la méthode que Renaud employait avant la Clio, et ce qu'il a mis en œuvre dans la Clio, et ça a réduit le temps de passage du projet école, ingénieur, maquette à la réalisation, à la chaîne, à la production, ça l'a divisé par 4. Oui. Alors,
je donne un exemple simple de ça, parce que ça va, à mon avis, il y a un exemple simple, quand vous prenez, c'est un peu la porte à la crème du moment, c'est un imaginaire très puissant, quoi. C'est les histoires de, je reviens à Apple, là, les histoires des apps. Hein. C'est-à-dire quand vous avez un iPhone, vous téléchargez des apps. Bon. Alors, évidemment, ça c'est un très bon exemple, avec toutes les ambiguïtés du truc, quoi, de ces histoires d'open innovation. Hein.
regardons aussi un peu le sujet hein, principal
qu'on est censé traiter. On n'a pas d'informations, en fait, on tourne autour. Bon.
C'est l'histoire d'Open Innovation.
Alors, pourquoi je prends l'exemple des arbres? Ce n'est pas très bon parce que, justement, il y a à la fois une vraie...
Applications.
C'est les 190 000 applications que vous pouvez télécharger sur votre iPhone.
Vous avez votre iPhone, vous téléchargez des apps. Hein. Je vous donne un exemple. Le fait que tout le monde a, c'est que, par exemple, voilà, ça, voilà, j'ai une boussole incorporée. Bon, dans le fait. Ça, c'est une app. Hein, une petite application. Mais vous avez, non, mais tout le monde a ça. Hein, il y en a donc plusieurs centaines de milliers.
Bon, alors pourquoi c'est complètement cette logique-là? C'est vraiment le ratio des outcomes sur les logiques de hub. Hein.
Pourquoi? Alors dans les apps, peut-être que vous le savez, il y a un truc récent qui est très important. C'est que,
évidemment, les apps ne sont pas produites par Apple, pas du tout. Hein. Elles sont conçues par des tas de start-up. Et puis de plus en plus, et ça moi je trouve que c'est un signal faible qui est tout à fait
curieux, de plus en plus par des particules, c'est-à-dire par des gens qui ont leur nom propre, postent des apps sur l'App Store,
de façon soit gratuite, soit payante, sachant que c'est très simple sur l'App Store, c'est Apple prend 30%.
C'est un tarif unique. Comme c'est payant, ils prennent 30%.
Mais alors, ils ont fait un communiqué à eux il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, pour dire que désormais, dans l'App Store, il y a davantage d'apps postées par des particuliers que par des start-up. Moi, je trouve que c'est un signal faible très très important. Quoi. C'est-à-dire, ça veut dire que il y a plus de gens qui conçoivent dans leur cuisine et tout leur app. C'est vraiment un exemple typique. Pourquoi il est ambigu? Parce que c'est à toutes les apparences de l'open innovation, il ne s'en est pas. Quoi. Hein, parce qu'il y a quand même un péage. Et puis il y a Apple, quoi, qui est le gérant et le garant de l'ensemble du système. Mais s'il n'y avait pas une forme d'open innovation un peu hybride, il n'y aurait tout simplement pas d'apps, quoi. Hein? Parce que même Apple, en recrutant le meilleur développeur, le meilleur machin, ils arrivent à l'idée que l'intelligence collective peut produire en termes de posting de nouvelles apps, quoi. Parce que vous avez des apps extrêmement diverses, hein? Ça ne va pas dire non plus n'importe quoi dans l'App Store. Bon. Ah, mais c'est vraiment de la productivité extensive.
Par captation au fond des externalités.
Oui,
c'est de la captation d'externalités de création et d'utilité très simple. Quoi. La plupart du temps, c'est des utilités du quotidien, des apps.
Mais vous me regardez, je ne sais pas pourquoi c'est un marché.
Une application. Une mini-application dont vous vous servez par exemple sur votre iPhone quand vous voulez. Par exemple, vous avez besoin de savoir d'avoir le plan du métro de la ville où vous êtes. Vous avez besoin d'avoir... Alors, il y en a qui sont téléchargés dans votre iPhone immédiatement, mais après, quand vous l'achetez. Mais après, vous pouvez avoir, enfin, plus exactement, quand vous achetez par iPhone, vous achetez un abonnement à un fournisseur d'accès lequel reverse à Apple la chose, etc. Mais vous pouvez avoir...
Je donne un exemple, voilà. Je ne vais pas faire un peu de bricolage. Bon, vous voyez, j'ai mon niveau.
Les jeux que tu downloads, c'est quoi?
Quand je pose
les étagères, je pose... Ben oui, vous servez votre téléphone mobile, vous avez une lampe de poche, vous avez un truc pour mesurer. Je suis sûr qu'il y a une application avec un rayon laser pour mesurer à distance les choses. Je veux dire, c'est invraisemblable, parce que vous avez les restaurants, la réservation de taxi, les horaires de la SNCF, votre avion, quand est-ce qu'il arrive, est-ce qu'il a un retard. C'est-à-dire que vous vous connectez, vous êtes en prise avec la production d'informations en tout genre, à tous les niveaux. Il y a Stanza, moi je parle toujours sur mon iPhone, évidemment ce qui m'intéresse moi, c'est de pouvoir lire dans la rue quand je veux tout le temps. Donc qu'est-ce que je fais? J'ai sur mon iPhone, je dois avoir 150 bouquins, dont les œuvres complètes de Michelet, celle de Saint-Simon, La Princesse de Clèves, que j'ai évidemment immédiatement téléchargé après la phrase de Sarkozy. Surtout qu'il est très mal tombé parce que c'est une des choses les plus grandes, c'est un des grands chefs-d'œuvre de la littérature française, donc il fallait un illettré total pour dire une connerie pareille. Mais bon, voilà. Donc, mais ce qui est hallucinant, c'est que vous pouvez lire, vous pouvez vous servir de ça pour et je pense que tu devrais montrer le
ce qu'il a dit Sarkozy.
Sarkozy a dit quel est le sadique qui a placé dans les concours de recrutement de fonctionnaires la princesse de Clèves au programme. Ce qui est profondément bête, parce que en plus, je regardais, moi je me suis amusé parce que je l'avais lu il y a longtemps, je l'ai relu, et je me suis aperçu qu'en termes de langage, c'est comme du Marivaux, c'est-à-dire que ça a moins vieilli que la langue de Molière. Si vous donnez à des enfants actuellement à lire du Molière, il faut que vous mettiez des notes en bas de page très très souvent, parce que la langue devient difficile, elle s'éloigne. C'est un peu comme du Montaigne, etc., ou du Rabelais. En revanche, la princesse de Clèves, je ne sais pas pourquoi, mais c'est probablement parce que c'est un vocabulaire assez pauvre.
C'est plus réaliste.
Non, pas du tout réaliste, non. C'est plutôt la carte du temps, c'est plutôt les méandres sentimentaux. Si vous voulez, ce serait du Facebook intelligent et lettré. Ce serait du Facebook cultivé. Mais du coup, c'est étonnamment moderne. Ça veut dire que quand vous entendez les gamins se raconter leurs histoires sentimentales, il y a d'ailleurs un très joli film qui a fait ça à propos de Marivaux, L'Esquive, qui raconte comment des gamins de banlieue qui font du théâtre font les bancs. Mais voilà. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez faire avec ça.
C'est plus facile que les âges.
Vous pouvez faire avec ça n'importe quoi qui dépend du degré d'information en temps réel, d'informations pratiques, de trucs du concours LinkedIn. Enfin, c'est...
Je donne un exemple simple, hein, vous avez jeté des publicitaires, vous savez, un peu tard. Mais d'habitude, les gens qui font de la publicité, c'est plutôt les grosses entreprises, quoi, qui a les grosses marques, quoi. Et puis, quand vous avez, mettons, vous avez une brasserie à Bruxelles, bon, vous n'allez pas être un grand advertiser. Votre publicité, si vous voulez, elle se fait par le bouche à oreille, un petit peu par les guides, j'essaie de référencer dans les guides, les trucs, mais c'est assez limité. Quoi. Évidemment, avec ces histoires maintenant, si vous ajoutez à Internet la géolocalisation comme une dimension supplémentaire, bah, du coup, vous avez des tas de gens qui ne se vivaient pas comme des advertisers, qui vont se mettre à faire de l'advertising. Par exemple, vous avez une brasserie à Bruxelles, bon. Si vous êtes un peu malin, vous lancez tout de suite votre app,
concernant votre brasserie, et puis qui géolocalise les gens,
qui leur proposent la brasserie, qui leur proposent une promotion, qui leur font, qui leur racontent des événements, ce qui s'y passe les choses, etc. C'est-à-dire qu'il y a un marché considérable, par exemple, pour les publicitaires qui sont en train d'arriver, qui est le marché du micro-advertising. Bon, à tel point que c'est la fin des tournées doublées tous, parce qu'ils se disent, bah, faut absolument, parce que, évidemment, alors, c'est pas du tout la même conception du métier et de l'audience. Hein? Mais, ça commence à se développer, c'est très rapide. Et là-dessus, à un moment donné, on va avoir un effet de réseau, comme on l'a vu, dès qu'il y a un effet de réseau. C'est-à-dire, à l'époque d'un effet de réseau, c'est toujours la même histoire, ça commence doucement, et hop, d'un coup, vous avez une exponentielle.
L'astuce fondamentale en termes.
Le fait qu'il n'y avait pas d'événement à Montpellier, tous les jours, c'est comme il y a un.
Ah, fraîche.
Oui, comment?
Fraîche.
Non, c'est un cas. Je crois qu'il a 280 millions de clics sur son.
Mais ce qui est intéressant, à mon avis, dans cette histoire, c'est le réseau. C'est-à-dire que, si vous voulez, l'activité des gens en train de réseauter, je n'ai pas d'autres mots, j'ai inventé le mot réseauter, crée une ressource économique considérable qui est tout simplement que, si vous voulez constituer ça à coup de pub, à coup d'investissement, ça va vous coûter la peau des fesses. Et avec une efficacité très, très médiocre, puisque vous savez que sur un mailing, vous avez entre 0,5 et 2% qui atteignent une cible et encore. Bon. Là, vous avez au contraire, dans la publicité dédiée qui surfe sur les réseaux en train de se constituer, vous avez une efficacité beaucoup plus grande parce que c'est comme le bouche à oreille. C'est-à-dire que les gens font eux-mêmes, c'est eux qui supportent le coût en temps réel, en temps d'activité mentale, intellectuelle et attentionnelle, c'est eux qui supportent le coût de ça, c'est-à-dire qu'ils créent eux-mêmes cette chose, hein, qui crée la vague. La vague, elle est créée par ce qu'on appelle le crowd, hein, le mouvement d'une multiplicité de gens en train de faire des choses et les mêmes choses. Et qu'est-ce que devient l'entrepreneur intelligent publicitaire ou l'entreprise tout court? C'est qu'elle va surfer sur cette vague, ou elle va capter par des instruments que le numérique, dont on dispose avec le numérique, elle va capter cette vague en train de se former pour savoir qu'à un moment donné, si elle se place au bon moment, elle va être portée, sans avoir à produire l'énergie pour se faire porter.
Comme on le disait hier, évidemment, elle ne va pas chercher à créer la vague.
Non.
Elle va pas chercher à capter la vague.
Mais vous savez qu'en termes de mobilisation, il y a un bouquin de Tepscott que je vous recommande, c'est les Wikinomics. Qu'est-ce que ça change? Pourquoi la collaboration de tout change? Et il donne un exemple frappant, ça commence par ça, par la Goldor canadienne, qui est une entreprise qui était menacée littéralement d'être rachetée. Sa capitalisation boursière était tombée à moins de 1 milliard de dollars, je sais combien. Bon, c'était la catastrophe. Et le conseil d'administration avait usé 3 ou 4 PDG qui n'avaient jamais réussi à faire quoi que ce soit. Et elle s'adressait à la banque et elle avait besoin d'un gros crédit. Et la banque lui refusait. Donc c'était la cata. Et ils ont fait venir quelqu'un qui a tenté une mesure qui maintenant est pratiquement un modèle dans les questions de management, et qui s'est aperçu que le vrai problème, c'était que l'entreprise n'était pas capable de dire au fond quelles étaient ses ressources en or. C'est-à-dire qu'elle avait des terrains partout, des mines, des machins. Pas capable de dire qu'est-ce qu'elle recelait en potentiel de minerai d'or, puisque c'est une entreprise qui produisait de l'or. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de réunir pour la 50e fois ces géophysiciens, ces ingénieurs, et leur dire bon, il faut qu'on reprenne exactement parcelle par parcelle ce que nous possédons, qu'on voit les minerais, qu'on évalue les minerais, il n'y a pas du tout. On fait une. Oui, mais il faut expliquer parce que je trouve que l'histoire est en elle-même intéressante. C'est-à-dire qu'il a réuni la plupart des. Il a ouvert un concours à la manière du 18e siècle, et il a dit voilà, doté d'un prix doté de 100 000 dollars. Pour celui qui nous donnera l'évaluation la plus proche des ressources réelles, etc. Il a ouvert un concours public ouvert à tout le monde. Et plus exactement, il a fait plus. Il a mis en ligne, officiellement et accédant, ce que les entreprises considèrent comme le cœur du cœur du cœur du secret, c'est-à-dire le statut juridique, les terrains, tout. Les travaux internes qui avaient été faits sur les travaux géologiques et tout. Et puis, ils ont fait un appel sur Internet, ouvert. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une mobilisation invraisemblable qui part des doctorants à des retraités, des ingénieurs même d'entreprises qui étaient contre là, en 6 mois, ils ont ramassé une évaluation des ressources qui doublait ou triplait les ressources qu'ils avaient été capables de trouver et qui sont allées d'ailleurs exactes. C'est-à-dire que la science collective, l'intelligence collective avait ramené plus de données, plus d'éléments. Le résultat des courses, c'est qu'avec ça, ils ont pu lever leur emprunt, ils ont pu éviter l'OPA dont ils étaient menacés et ils ont pu repartir et leur capitalisation boursière a quadruplé. C'est un exemple de crowdsourcing. Ça veut dire que c'est une capacité par l'entreprise de capter l'intelligence collective en réseau, et notamment avec l'outil du numérique. Et ça, je pense que c'est exactement la chose qui nous intéresse à propos de la plateforme, car ce sont des plateformes équipées, outillées. C'est-à-dire que si vous n'utilisez pas la puissance du numérique pour capter l'information en temps réel en train de se faire et les réseaux en train de se faire, eh ben, vous n'avez ni planche de surf pour vous mettre, ni endroit pour repérer les bonnes vagues.
Bon, ce qui pose une question assez qui n'a pas de solution, hein,
à tous les gens qui s'occupent notamment des questions de marque et d'image.
Parce que, si vous voulez, d'habitude, enfin, c'est pas d'habitude, il y a un peu,
il y a un paradoxe, si vous voulez, quelque chose là. Quand vous avez une entreprise, des notoriétés, une image, etc., vous allez essayer de raisonner en termes d'identifiabilité de votre entreprise et d'identité. Alors, vous allez essayer de faire apparaître ce qui est votre puissance. Quoi. Parce que vous êtes le garant de la qualité de vos produits, de vos machins, etc. Et donc, votre concept central, si vous voulez, ben, c'est maintenant, c'est celui de votre identité. Quoi. Les gens, ils n'arrêtent pas de parler comme ça, mon identité de marque. Quoi. Le problème, c'est que vous voyez que pour perdre l'intelligence collective qui ne donne pas les mêmes résultats, il n'y a rien à faire hein, qu'un système propriétaire, vous ne pouvez pas vous présenter tout à fait de la même façon. L'exemple extrême, qui est aussi une crème du moment, c'est que vous allez sur la page Apple, la page qui est en crise de Google. Depuis plusieurs années, elle est obstinément blanche, comme un écran de cinéma avant que vous ayez la projection du film. Parce que le blanc, dans nos cultures, etc., universel, je ne sais pas, c'est justement sa centralité. Il n'y a pas d'identité. Ah, et vous voyez, c'est le paradoxe du tout. C'est l'entreprise la plus puissante en termes de captation. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence collective, c'est justement l'entreprise qui essaye d'avoir le moins d'identité. D'ailleurs, il y a un truc qui ne trompe pas,
même si j'enfonce une porte ouverte, mais Google a
un budget publicitaire quasi nul. Ah, il n'y a pas de budget publicitaire de Google, très peu. Ils ont fait un tout petit peu de pub sur Google Chrome récemment, mais très peu.
Et le recrutement
de la même façon que Facebook est une entreprise qui n'a pas de budget publicitaire. Bon, alors, évidemment, vous voyez, c'est un espèce de réagencement quand même,
qui n'est pas seulement de l'ordre des questions de productivité,
mais qui est de l'ordre vraiment des imaginaires, quoi, parce que même Michu, là.
Bon, et puis, sur les marchés, évidemment, vous passez d'un marché dans lequel vous avez un marché de dissociation entre les produits et les services. Et puis, soit vous faites l'un, soit vous faites l'autre, soit vous faites les deux, mais vous dissociez le produit et le service, à un marché, on pourrait, comment appeler ça, un marché de solution.
Sachant, comme vous savez, pour ne pas être naïf avec ça, que ceux qui ont inventé le marché de solution, c'est les gens justement de l'industrie lourde. Hein. C'est business to business qui a inventé le marché de solution. Et puis, c'est en train d'arriver de façon très importante dans le B2C. Mais c'est les gens de l'industrie. Il y a des tas de paradoxes quand on parle du matériel, parce qu'on a l'impression qu'on parle justement d'un monde qui n'est pas le monde industriel. Or, c'est le monde industriel, le plus industriel qui soit. C'est souvent les entreprises qui ont le plus de questions industrielles, de mobilisation de capital et de productivité, qui sont passées les premières du marché des produits ou services au marché des solutions. Dans le business, dans le B2B, vous achetez des solutions.
L'illustration est passée de la vente de brevets ou la vente de plans d'usine sur plan à l'usine clé en main et à la montée en cadence. C'est plus l'usine clé en main qu'on monte, c'est l'usine qui est montée en cadence. Donc il a résolu les problèmes au fond de rodage, si vous voulez, de l'outil productif.
Dans l'immobilier de bureau, ça fait que rarement uniquement des mètres carrés plus du service. Et quand vous allez dans les trucs que vous élaborez, il y a aussi les stratères, les machins, tout ça, et incorporer l'organisation des mètres carrés, etc.
Et, alors évidemment, vous n'avez pas du tout la même innovation. Dans un cas, une innovation propriétaire,
c'est le brevet, si vous voulez pas, hein, qui est la grande dame.
Cette histoire, hein, la forme du brevet, est maîtrisée et aussi exhaustive que possible de la chaîne de valeur. Hein.
Alors que dans l'autre cas, vous avez l'inverse. Quoi. Une innovation collaborative avec une crédibilité de la marque
et des partenariats globaux.
Et des partenariats qui apparaissent comme un assemblage et d'intégration et pas comme quelque chose qui est un offreur. Il y a des grandes différences entre apparaître comme un offreur en termes d'identité de marque, par exemple, et puis le fait d'apparaître comme un lien d'un assemblage, d'intégration ou de coopération.
Google et Apple qui se combinent énormément les brevets et protègent énormément leur technologie.
Mais bien sûr.
Enfin, Google, c'est pas le brevet, c'est carrément le secret. Apple, c'est le brevet sur la couche supérieure de la machine. Mais la couche inférieure d'un Mac, c'est licence BSD, open source. C'est la base de la... C'est d'ailleurs pour ça que les gens qui sont vraiment des fanatiques de l'open source, leur idéal, c'est de prendre un Mac, à cause de la qualité de la machine, et de sur le Mac, de désinstaller l'OS Safari ou tout ce que vous voulez, ou Leopard, et de mettre un Debian quelconque ou un Ubuntu dessus, parce qu'en réalité, tous les systèmes de base, en bas, en dessous, sont compatibles avec le Linux. Ce qui n'est pas du tout le cas, par exemple, de Microsoft.
Mais les acteurs qui ont réussi cette stratégie de cloud, ce sont ceux qui ont réussi à combiner un contrôle, parce que par exemple, les projets de Red Hat, les projets plus open source, ils n'ont quand même pas atteint le...
C'est contrôlé, ça dépend de ce qu'on entend par contrôlé. Je pense que c'est pas contrôlé, c'est arriver à reporter le lieu de valorisation d'un endroit où il clôture, il empêche l'innovation, à une zone où, si vous voulez, on arrive à faire l'argent. Grosso modo, c'est le modèle des clubs de foot ou c'est le modèle de Star Wars qui gagne de l'argent accessoirement sur le film et qui en gagne plus dans les dérivés, les figurines, que dans le truc. C'est le modèle de tout ce qui va, c'est le modèle des clubs de foot qui gagne de l'argent sur les t-shirts qu'ils vendent et pas sur le système de spectacle de foot. C'est sur les droits de retransmission qu'ils gagnent, c'est pas sur le match. D'ailleurs, vous avez vu récemment qu'on peut faire maintenant jouer les équipes à public fermé, à stade fermé pour les histoires de hooligan et de machin, et que ça n'empêche pas que la retransmission des matchs a lieu, etc. Bon, donc on est c'est pas le problème. Le problème, c'est la fragmentation de la chaîne de la valeur, son hétérogénéité, et le fait qu'il faut trouver les bons endroits où on ouvre, et les endroits où on ferme. C'est un peu le problème du protectionnisme. C'est ce que les Japonais ont pratiqué sur ce qu'on appelle le développement en vol de cygnes sauvages. C'est-à-dire c'est un mélange d'ouverture. Il faut ouvrir dans les secteurs qui ne vont pas être tués à la concurrence, où l'émergence des acteurs nouveaux ne va pas être tuée. Et il faut fermer, au contraire, quand on a, à un moment donné, des choses qui doivent être protégées comme un semis, une dépinière, etc., d'entreprise et tout. Et ça, c'est véritablement, c'est donc pas de l'hybride. Parce que souvent, les gens pensent qu'ils vont mettre l'hybride. C'est l'erreur des gens qui ont fait de l'open source. Parce que l'erreur des gens qui ont fait de l'open source, c'est qu'ils ont dit, voilà, on crée les externalités positives, on les balance. Alors évidemment, dans ce cas-là, les propriétaires, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, yabo banania, je ramasse. Hein? Et puis, quand on parle des financements globaux de la production de ces externalités positives, il n'y a plus personne, c'est comme la lumière du phare. Personne, il n'y a pas de marché possible pour la construction de phare. C'est ou de la subvention publique, ou des systèmes détournés autrement. Mais ça ne peut pas être un système de marché. À la limite, les Creative Commons sont un modèle, et les modèles du copyleft sont plus astucieux dans la limite qu'ils mettent à la prédation des externalités positives par les systèmes propriétaires. Donc ça, c'est vraiment compliqué. Mais en même temps, il faut voir que les gens de l'open source, ils avaient un problème, c'était battre le standard propriétaire et installer les standards non propriétaires de façon à gagner la bataille des standards. C'est-à-dire, c'est la grande querelle que vous avez sur les matériels. C'est pour ça que l'électronique est une foire invraisemblable et les constructeurs automobiles ont raison de dire que si on avait laissé l'industrie automobile sur ce qui est en train, ce qui s'est produit pour les ordinateurs, on aurait eu des voitures avec la largeur des cieux, de pneus, de hauteur qui ne se seraient jamais standardisées, etc. Parce qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait une norme qui soit imposée à tout le monde, notamment la norme d'interopérabilité. C'est seulement depuis 6 mois que vous avez l'obligation maintenant, un engagement de tous les constructeurs de portables téléphones, à ce que les chargeurs soient compatibles entre eux. Actuellement, aucun chargeur n'est compatible, ni à l'intérieur d'une marque, dans les différents modèles, ni entre les marques. Donc vous avez les gens qui sont en train de courir. Bon, ça c'est une norme toute bête qui ressemble à celle quand on a exigé que les pneus des véhicules pour touristes, il n'y ait pas des pneus qui fassent 3 mètres de haut et d'autres qui fassent 20 cm. Hein, c'est des choses comme ça. Mais on est bien d'accord qu'il y a un vrai problème économique derrière. Il y a un super problème de possibilité de, au bout d'une chaîne de valeur, de ramasser quelque chose. Donc, c'est la vraie, mais c'est une vraie contradiction qu'on est obligé d'être. De voir dans son ensemble. Et la solution immédiate, oui, on va faire de l'économie mixte, on va faire de l'hybride, c'est pas si facile que ça. Et vous voyez bien que Apple, sa caractéristique par rapport aux grands choix qu'ont fait d'autres gens, à IBM qui s'est immatérialisé totalement et qui s'immatérialise de plus en plus, à Microsoft qui suit avec retard comme d'habitude tout ça, mais comment ? Non, qui ramasse plus, hein, c'est fini. C'est fini. Je pense que c'est l'échec de Vista a été un truc cinglant, et vous avez bien vu que Bill Gates, son cadeau de départ, ça a été de dire que désormais les gens n'achèteraient plus des systèmes d'exploitation. Le seul moment où ils vont les acheter, c'est quand ils sont avec des bécanes, ils ne râlent pas trop quand ils achètent un Mac. Parce qu'il y a une question de supériorité de la machine. Mais si vous, et Apple a pris une décision de garder le contrôle sur le hardware, le software applicatif et surtout la connectivité des gens. Parce que c'est là où ils ont gagné la partie. C'est par l'iPod et l'iPhone qui sont en train de revenir sur la fourniture. Ils sont remontés.
Vous voyez bien qu'ils ont une stratégie, pour le dire basiquement, par les périphéries. Ouais. C'est-à-dire Apple a gagné par les périphéries. C'est-à-dire en incorporant dans des produits bien designé, etc., à des utilités de périphérie.
Mais si vous regardez vous avez pris l'App Store, Apple comme un exemple de créativité, d'idées ou d'unités, et on regarde tous ceux qui réussissent, c'est-à-dire Facebook, Google, même Wikipédia d'une certaine manière, il y a un peu, je trouve, la même logique, c'est-à-dire qu'on donne une liberté dans un cadre très contrôlé et l'entreprise garde le contrôle.
Non, Wikipédia, on ne donne pas une. D'abord, c'est pas une.
Il y a un ensemble de règles extrêmement.
Il y a toujours des règles.
Oui,
mais c'est les règles d'appropriation, ce n'est pas forcément des règles propriétaires. Dans le cas de Wikipédia, il n'y a pas de. C'est pas du tout la même chose. Et d'ailleurs, il y a un problème sérieux économique pour Wikipédia, qu'il n'y a pas, si vous voulez, pour Facebook pour l'instant, ou qu'il n'y a pas pour les réseaux sociaux. Mais pour Wikipédia, il y a un problème. C'est
difficile. Je vais peut-être mieux comprendre pourquoi vous dites qu'il y a un problème dans ce modèle comme App Store, Facebook.
Non, je ne sais pas qu'il y a un problème. Je dis une chose très basique, qui est que.
Quand je décris cette antinomie-là, cette opposition, si vous voulez, évidemment, elle est, je suis désolé d'être aussi basique, quoi. La vérité, ils sont un peu entre les deux, quoi. Évidemment que vous n'avez pas de système complet d'open innovation complet, quoi. Mais ce qui est important, c'est de dire que vous avez de moins en moins de systèmes impérialement propriétaires.
Et comme vous allez avoir une offre de gratuit, si vous voulez vendre quelque chose dans les apps, et des apps qui vont de 15€ à 90 centimes d'euros, vous avez une base de gratuit qui est fondamentale. C'est-à-dire que si vous n'avez pas cette base de gratuit, ça ne marche pas.
Il faut qu'on fasse une pause.
Oui, tous les projets, par exemple, le projet de faire un moteur de recherche payant, c'est évident qu'au départ, quand des gens sont arrivés, il faut faire le moteur de recherche gratuit, la plupart des gens qui avaient l'habitude de travailler dans le business ont dit, mais vous êtes complètement cinglés.
Bon, alors merci pour cette...
Pourtant, l'ICOS a fait ça, et l'ICOS a perdu là-dessus, et les opérateurs ont perdu parce qu'ils n'offraient pas le service gratuit suffisamment vite, comme Google l'a fait sur...
Merci pour cette transition, parce que tu fais la transition avec le deuxième sujet qu'on voulait aborder, c'est... La question moins déterrée, avant, on fait une pause tout de suite, dans une minute. Là, on a en fait beaucoup parlé de la question du territoire, hein, mais au sens large. C'est quoi le périmètre, le territoire et tout. Puis là, alors dans le deuxième point, moi, je trouve que comme question un peu au capitalisme cognitif, on va essayer de développer un peu ça, notamment ce problème-là, là, qu'on a déjà eu des discussions ensemble, on va essayer de développer, c'est la question de la forme des désirs. Hein.
Les gens ont fait le désir quoi, veulent quoi, qu'est-ce qu'ils veulent, je crois. Comment ils veulent quoi.
Bon, alors on va faire une pause tout de suite, mais moi je prends cette image-là, elle est un peu simplette, quoi. Mais c'est dire, on est passé vraiment de désir qui, si on les cartographiait, aurait donné, mais c'est plus du tout le monde dans lequel on est, une espèce de poire, vous voyez, avec de l'entrée de gamme, de beaucoup de milieu de gamme et puis un peu de premium. Un sablier, alors c'était bien avec ce que vient de dire Yann, parce que dans le sablier, le bas du sablier, j'ai mis l'eau d'un truc qui n'existe plus, mais qui a une époque, c'est toute une histoire, qui était Napster, je pense que vous vous souvenez. C'était un des premiers très grands trucs de pire que pire, dans lequel il y avait Alors, qui a évidemment lancé toutes les controverses sur les droits de propriété dans la musique, quoi, hein, et tout ça.
Bon, Napster, c'est quand même l'origine de Firefox.
Oui, absolument.
C'est 35 millions de téléchargements de nouvelles versions en une journée.
Bon, alors après la pause, on revient à cette histoire de poire ou sablier, tout ça. Comment ça se...
Oui. C'est d'une persévérance. Le staff, okay.
Bon,
le
merci.
Staff de salarié prend pour se saborder sur un livre en inclus le forum en livre et parce que ils sont rendus compte que l'explorateur qui avait été tué donc Napster en fait était à l'origine de plein de comme beaucoup, tout ça c'est une histoire. Il y a 15 à 20 ans d'histoire, de livres, qui est en train de rafler, j'ai vu qu'il progresse de façon foudroyante en France, 40% du marché. Curieusement, les Français vont se trouver des acteurs extrêmement efficaces. D'ailleurs, c'est une réalité, puisque en termes de livres informatiques, c'était eux. Par exemple, c'est eux qui ont inventé le premier ordinateur portable. Le gars qui l'a inventé, qui s'appelle Strauss-Kahn, ils ont inventé un ordinateur qui a été celui, encore une fois, que Bill Gates et tous ces pilotes ont en fait avaient complètement cloné, qu'ils ont présenté deux ou trois ans plus tard. Et Apple avait sorti Apple, c'était en 80. En 82, je crois, le premier ordinateur à présenter comme ça, le 272 aussi.
Je pense que sur la tête, parce que quelque part, on va gagner l'économie où les idées sont présentées. Mais ceux qui gagnent de l'argent, ce n'est pas ceux qui ont les idées, c'est ceux qui arrivent à trouver le modèle.
Oui, mais là, il y avait, il y avait deux choses, c'est-à-dire que je pense que Microsoft est un formant. C'est-à-dire que c'est d'ailleurs souvent comme ceux qui ont gagné de l'argent, c'est la même chose pour le père Newton, qui était un véritable homme d'affaires, qui avait instauré un réseau de veille et d'espionnage et qui a pompé vers l'Angleterre, qui a drainé toute l'Europe continentale, parce que le malheur Huygens, tout le monde qui était en correspondance avec Newton, qui a formé l'Académie des sciences sur ce modèle-là, drainait les inventions, etc., et les ramenait. À l'époque, ces scientifiques avaient un partage un peu comme... Montagnier a trouvé normal de partager avec les Américains, c'est-à-dire des échanges de cellules de souche. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, ce qui fait que quand on a découvert les cellules de souche du virus du sida, les Américains ont annoncé qu'ils avaient l'heure. Ça a suffi pour créer un bordel fantastique pendant 5 ans, au terme duquel les Français ont partagé le droit dessus avec les Américains. Le mal était fait, c'est normal, il s'est avéré qu'en fait c'était à partir de cellules françaises, souches françaises, la découverte américaine n'en était pas une. Le résultat des courses, c'est passé le Nobel, a été donné à Senussi et Barès, Senussi et Montagnier, et pas à l'équipe américaine. C'est vrai qu'en termes de commerce, les Américains avaient gagné, c'est-à-dire qu'ils avaient réussi à choper la moitié du marché des royalties. Mais Edison a fait la même chose. L'inventeur de l'ampoule, c'est pas Edison. C'est un malheureux savant anglais qui a le malheur dans une communication publique de faire part de la véritable invention de l'ampoule, qui n'est pas, dès 1828, on avait déjà pensé à un pôle différentiel de pôle entre un pôle négatif et positif avec un arc et un truc qui brûlait, c'est qu'à l'époque un tissu de feutre, une feutrine. Donc ça, le principe avait été inventé, mais ça se heurtait au fait que le tissu cramait, mais qu'il s'effondrait, c'est un peu comme dans les bouteilles de butagaz. Vous savez, les butagaz portables, vous avez cette espèce de petit truc, ce filet, qui au bout d'un moment tombe en poussière. Et là, la feutrine cramait tout de suite, si c'était un métal, il fondait. Donc on a fini par trouver du tungstène, des métaux extrêmement résistants à l'intensité, au phénomène de résistance. Mais la véritable invention, c'est le vide qui, en créant, en raréfiant l'oxygène, permet à la combustion de ne pas atteindre la température qui fait fondre le fil de tungstène. Donc, si vous voulez, ce principe-là, Edison l'a chopé comme ça en gamin, il a immédiatement mis en route son truc aux États-Unis, il a déposé un brevet, et il a eu le pipet de revenir en Grande-Bretagne avec l'idée d'installer une entreprise qui vendrait, la compagnie avait des carrières, un gros marché, c'était les marchés publics. Et là, bon, souci, le bureau des brevets anglais lui a dit, écoutez, monsieur, peut-être que ce que vous avez fait aux États-Unis, qui d'ailleurs à l'époque ne connaissait pas les brevets internationaux,
la reconnaissance des brevets, c'est la Convention de Paris, c'est 1883, c'est très tard. Et ces affaires commencent dès 1860. Et on lui a dit, bah, écoutez, peut-être que ce que vous avez fait, etc. Mais en tout cas, en Angleterre, vous ne fonderez pas de société sans au moins partager les bénéfices avec le vrai inventeur. Donc, dans ces histoires, partout où on parle de propriété, il y a derrière un vol initial. Hein, l'Angleterre d'Elisabeth II, l'Angleterre d'Elisabeth Ier, s'il n'y avait pas eu le capitaine Drake qui a capté les galions espagnols remplis d'or et qui a grosso modo ramené 170 millions de dollars de l'époque, enfin de livres sterling, ce qui correspond grosso modo à 4 ou 5 milliards d'aujourd'hui, eh bien le trésor anglais aurait été dans un effondrement dans lequel il était déjà sous Henri VIII, ce qui avait amené Henri VIII à nationaliser les biens du clergé, en réalité c'est ça derrière l'histoire du divorce, pour réussir à remplir les caisses de l'État. Et donc l'Angleterre a bénéficié de 15 ou 20 ans à un moment décisif de ce qu'on peut appeler un vol pur et simple, c'est-à-dire elle avait dévalisé les coffrets espagnols qui d'ailleurs avaient pillé les coffrets des malheureux indiens. Donc on est toujours. Donc il y a toujours dans cette histoire.
Il y a voleur.
Oui, non, ou alors il y a un héritage, vous savez, vous connaissez l'histoire célèbre, Jacob rencontre Isaac et lui dit comment ça va, oh ça va, j'écoute mes affaires vont très bien, alors comment t'as fait? Ah mais voilà, j'ai trouvé une pomme, j'ai acheté une pomme, j'ai illustré ma pomme, j'ai été la vendre, et j'ai gagné un bon, et alors combien t'avais gagné? Ben, c'est formidable parce que j'ai gagné deux pommes, avec deux pommes, j'ai illustré ma pomme, et je les ai vendues. Et comme ça, pendant une demi-heure, et l'autre lui dit arrête, et alors qu'est-ce que t'as fait? Parce que c'est pas avec ça que t'es devenu riche. Il a fait non, j'ai illustré ma pomme, machin, puis après j'ai fait un héritage, et là ça m'a permis de démarrer. Donc où il y a un vol, où il y a un héritage, mais c'est strictement impossible, avec de la vente de deux pommes, plus deux pommes, plus deux pommes, d'arriver à un truc comme ça. Et donc dans ces histoires de propriété, Newton avait été très malin. C'est-à-dire qu'il avait compris que l'anage. Parce qu'on peut faire du captage d'externalités. D'ailleurs, beaucoup d'entreprises ont des veilles technologiques. Et la veille technologique des très grandes entreprises, ça consiste à repérer l'innovation chez les petits. Et les petits n'ont pas, parce que le coût d'accès d'entrer dans un brevet, c'est 150 000 euros de dépôt. Dans les trois zones, un brevet mondial, ça coûte beaucoup plus, c'est 200 000, 300 000 euros. Un investissement qu'il faut quasiment renouveler par an, comment voulez-vous, avant qu'un brevet rapporte 150 000 euros, il faut se lever de bonne heure. Donc, il y a énormément de petites et moyennes entreprises qui ne sont pas capables de porter, alors, d'où d'ailleurs l'idée des clusters, que ces trucs-là sont portés par des universités, par des pouvoirs publics, par des entités. Alors après, il se pose le problème de la répartition de ça, parce que si c'est la collectivité locale qui, si vous voulez, avance l'argent. Ça a été étudié quand on a étudié les fameux miracles de la troisième Italie. Au début, les gens disaient, mais la troisième Italie, ça s'organise. Et puis, le MIT a envoyé un deuxième rapporteur qui a bien regardé, parce qu'au début, qui recevait, avait dit, c'est fabuleux. Et puis, le MIT a envoyé un rapporteur qui a dit, bon, écoutez, c'est des zones où, premièrement, la circulation automobile, à cause de la décentralisation productive, augmente de 10% en l'an le trafic des camions. C'est-à-dire, le truc est strictement impossible à terme, parce qu'à terme, on a des nordiques de camions partout. Bon, et dans les routes de neige, des routes dans le Trentin, le Haut-Adige et tout. Puis après, ils ont dit le problème, c'est que là-dedans, il faut c'est les impôts locaux qui financent tout ça. Donc les entreprises, si vous voulez, font en apparence un profit qui. Elles ne remplissent aucune des fonctions de communication, d'investissement dans les brevets, etc. Et c'est surtout une économie non innovative, disait-il. Car c'est une économie où les entreprises considèrent comme normal de ne pas avoir à faire de la R&D. Donc elles incorporent des connaissances, mais ces connaissances, elles sont produites complètement dehors et l'entreprise n'a rien. On a la réaction française qui est à peu près la même chose. Le MEDEF a dit, normalement, la règle d'attribution sur les 3% qu'on devrait faire de PIB, et à mon avis c'est ridicule, il faudra en faire 10, mais laissons 3% qui était le critère de Lisbonne, avec 1,5% pour le public, 1,5% pour le privé. En France, par exemple, depuis 15 ans, le public a fait ses 1,5%. Il les a fait. Le problème, c'est que le privé n'a fait que 0,5%. C'est-à-dire que ça fait 10 ans, 15 ans, que les grandes entreprises françaises, systématiquement, il manque un point de PIB par an. Alors, étonnez-vous si après, en termes d'emploi, c'est la catastrophe, c'est la délocalisation. C'est le produit de ça. Si on prend la Finlande, c'est 3,5-4%. La Norvège ou la Suède, c'est...
Comment on fait en privé ?
Pas
tout le monde
s'immense. Non, non, tu as en Suède, ils ont été très violents, ils ont pris tous les jeux, et ils ont affecté autoritairement tout le produit de tous les jeux directement à financer la recherche. Ça change tout. Je dois dire que si on faisait ça pour nos cours de canassons et autres conneries, Joto et compagnie, je garantis qu'on ne serait pas à mendier 9 milliards sur les 26 milliards là, du plan de relance, il y a 9 milliards pour les universités de la recherche. Ça me fait rigoler. 9 milliards, c'est le pourboire pour le groupe. Parce que 9 milliards, ce n'est pas 9 milliards qui sont investis chaque année. C'est une dotation. La plupart de ces 9 milliards, ce sera une dotation des fondations d'université. Et donc, ce qui sera dégagé par an, c'est ce que rapportent ces intérêts. Comme le marché financier ne va plus rapporter 20% par an, parce qu'il y a un effondrement, vous aurez des sommes ridicules. Et c'est toujours la même question, c'est qu'en France, on veut bien investir dans des machines, dans du foncier, dans des bâtiments. Dès que vous dites qu'il faut investir dans la tête et dans des salaires, là, vous n'avez plus personne. Vous n'avez plus personne pour financer des doctorants, pour financer les trucs. Vous n'avez personne.
En France,
oui. Mais en France, c'est une catastrophe. Ça atteint une catastrophe pour un pays qui prétend avoir des trucs. Résultat, les choses qu'on avait dans les grands projets sont le résultat d'investissements d'il y a 20 ans. Et les investissements en nanotechnologie maintenant, les investissements dans le dernier plan, il a fallu, d'ailleurs un ami d'Antoine, Henri Verdier, qui est à Cap Digital, il a fallu qu'il prenne deux esprits qui ne sont pas totalement débiles, qui sont Juppé et Rocard, il a fallu qu'il les prenne comme ça et qu'il les persuade qu'il fallait investir dans le numérique fortement et pas investir dans la Xème version des TGV et dans du lourd industriel. Alors que nous avons le plus fort taux d'exportation, la France exporte le plus grand nombre par rapport à sa population d'informaticiens vers la Californie. Nous sommes le mieux représentés en Californie. Pourquoi ? Parce qu'on a une très bonne école de mathématiques, parce que c'est évident que les Français ont des aptitudes à ces trucs logiques. C'est impossible en France, donc il faut que quand. Dans les dernières absorptions de start-up par les Américains, dans les pays d'Europe, quand ils absorbent des petites start-up, j'avais vu quelqu'un qui faisait ça par le compte d'une énorme société américaine qui m'avait expliqué. Dans la plupart des pays d'Europe, ils achètent les start-up, ils les maintiennent sur place. En France, ils les ferment. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent récupérer les informaticiens en Californie.
Mais culturellement, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose avec la France où, qui culturellement a du mal à passer à une économie industrielle très hiérarchisée, à une économie digitale qui est beaucoup moins difficile à...
Bien sûr que oui, mais bien sûr que oui, c'est évident. On a un CNPF. Enfin, on a
une question de culture ou de politique ou...
Non, c'est une question d'hiérarchie. La France est un pays hiérarchique. Et quand c'est pas la hiérarchie d'ancien régime qui a traversé la Révolution française, c'est la hiérarchie napoléonienne et centralisée. Entre les deux, on est vraiment mal doté.
Et c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de Français qui, à l'étranger, sont finalement...
S'épanouissent mieux. Et pourtant, c'est pas des gens qui aiment s'expatrier. Ouais. Comme les Japonais, les Français ont horreur de s'expatrier. Question bouffe, question, etc. Mais néanmoins, dans le domaine de l'informatique, c'est dramatique de penser qu'effectivement, on a loupé le pendule, que sur la question de l'invention de l'ordinateur, le PC, il a plutôt été inventé en France, et que ça n'a pas été foutu de se développer.
Mais il faudrait que ces gens-là, les Français, reviennent en France, alors pour un peu changer la...
J'en sais rien, il faudrait surtout... Par exemple, le TO7, il y avait partout dans les écoles, il se développait un truc formidable. Apple avait proposé d'équiper tous les ordinateurs Mac, tout le système français. Ça aurait changé tout. Thomson, pour protéger sa merde, qui s'appelait le TO7, qui était une vraie merde, a été installé autoritairement par Fabius, qui n'a pas seulement fait la connerie de s'en contaminer, il a fait cette fleur à l'industrie de fond. Thomson, c'est un fabricant de chaudron, de chaudronnerie et de locomotive, hein, c'est rien de plus. Donc, on a fait ça, le résultat, c'est qu'on a installé aux gamins, c'est comme le Minitel, on leur a collé le TO7, ça a tué totalement les clubs d'informatique qui étaient en train de se développer, lesquels ont été tués par les profs qui les détestaient. Aujourd'hui en France, la moitié du corps enseignant d'écoles, des lycées, etc., une grande partie de leur truc s'est occupée à démolir Wikipédia. Alors quand on leur explique qu'une erreur dure 3 jours ou 3 semaines sur Wikipédia et qu'elle dure 7 à 8 ans sur l'Encyclopédia Britannica, que ça se renouvelle, etc., ils vous disent mais non, etc. Bon. Il y a la question de l'autorité. Il y a la question de l'autorité. Les gens ne veulent pas perdre l'autorité. Or, dans un système comme ça, l'autorité, c'est les pères. Les profs français réagissent très très violemment au fait qu'ils soient notés par les étudiants.
Il y a toujours pensé qu'il y a un point d'équilibre entre une société où l'autorité est
tombait, et le chaos.
Mais ce n'est pas le cas où une société dans laquelle il y a une hiérarchie horizontale et pas forcément. Il y a toujours de la hiérarchie.
Oui.
Il y a toujours de la hiérarchie. Il y a de la hiérarchie de la qualité dans l'art, il y a de la hiérarchie dans l'université, il y a de la hiérarchie dans tous les trucs. Et rapidement, les groupes font les choses. Le problème, c'est une hiérarchie horizontale ou une hiérarchie verticale. Et ça, tous les gens ont été habitués à une hiérarchie top-down. Par exemple, en France, on ne comprend pas ce que c'est que le bottom-up. L'innovation bottom-up, c'est impossible. Au maximum, ce que Madame Parizeau va penser, c'est la boîte à idées pour les ouvriers un peu idiots.
Ok, les désirs.
On va aller beaucoup plus vite un peu sur cette partie-là. Bon, juste si vous voulez, je ne sais pas si vous êtes d'accord hein, avec ce passage de ce monde-là, disons, dans lequel, si vous voulez, vous aviez... En gros, c'est un peu simplifié. Vous aviez Fiat en bas, Renault au milieu, Mercedes en haut, quoi. Bon, un monde qui a plus, donc beaucoup plus la forme d'un sablier. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le sablier, si vous voulez, c'est qu'il y a une espèce d'alliance objective entre le haut du sablier et le bas du sablier. Ce qui pose un gros problème au milieu, quoi. Bon, du sablier, quoi. Hein? Bon, je vous donne un petit exemple, parce que moi je regarde un peu ces trucs-là pour les études de Angers, hein, de l'Institut français de la mode. Bon, vous prenez un truc comme H&M. Bon, H&M, en fait, c'est oui, une marque de vêtements assez pas chère, plutôt low cost, quoi. Mais évidemment, H&M, qu'est-ce qu'ils font depuis quelques années? Ils s'allient systématiquement avec, pour des petites séries. Alors, ils ont commencé avec Karl Lagerfeld, et puis l'année d'après, ils ont fait avec Stella McCartney, puis avec Comme des garçons, puis cette année, ils le font avec Sonia Riquel, etc. Donc, c'est le bas du sablier, si vous voulez, qui s'allie avec le haut du sablier. Alors, évidemment, le problème, c'est tous les gens qui sont au milieu, quoi. Parce que eux, bon. Puis, c'est vrai aussi, c'est vrai, alors, à plus forte raison, dans le monde de l'information et du cognitif, c'est un peu tout ce qu'on vient de dire, quoi. C'est-à-dire, vous avez le haut du sablier, sous les deux. Apple, hein, qui a besoin des phénomènes de type open innovation pour pouvoir créer son effet de radio et pour pouvoir diffuser très largement. Donc ça pose, alors on va passer un peu dans le temps, on va en parler pendant des heures, ça pose l'énorme question sociologique là, qui agite tout le monde sur les classes moyennes à la dérive, qui n'ont plus de représentation d'elles-mêmes et tout.
Et de l'autre côté, sur le fait que la creative class, qui est une terminologie plus intéressante que la nominale terminologie bobo française, parce que ça dispense les gens qui n'osent pas l'anglais de dire qu'ils n'ont jamais lu Florida et on dit bobo, donc ça. Bon. C'est tout à fait le phénomène qu'on a dans la creative class qui est à la fois qui participe des phénomènes les plus élitistes, les plus haut de gamme, les plus snobs, et en même temps. Et qui comporte une sacrée dose de précarisation sociale qui l'a fait côtoyer
le précariat.
Le précariat. Et donc c'est l'alliance des deux qui est étrange. Et là-dedans, tout ce qui se passe, tout ce qui est classiquement remis en cause, c'est l'emploi pépère salarié du cadre moyen ou de l'employé moyen.
Bon, ensuite je vais juste pour poser ça, moi j'utilise ça souvent quand je discute avec des gens qui sont dans les histoires de marque, notamment, mais pas seulement en fait. Bon, on pourrait faire un développement philosophique d'ailleurs, tout ça, mais on n'a pas beaucoup de temps sur cette histoire de triangle là. Bon. Moi je vois ça comme ça, mais c'est juste moi, hein, c'est pas du tout, vous pouvez voir ça autrement. Moi j'ai cette impression là. C'est notamment depuis la crise, là, hein, depuis septembre 2008, il y a une accentuation de ce phénomène. C'est-à-dire que vous avez trois positions qui sont à la fois en guerre les unes par rapport aux autres et qui en recherchent de complémentarité. Ces trois positions, moi, je les définis un peu comme ça. Bon, vous avez d'un côté la question patrimoniale, c'est-à-dire alors, l'essentiel de la valeur, c'est dans les actifs. Hier, c'est de venir dans le discours politique, par exemple, c'est bac qui paysait, retour à l'industrie, on arrête la creative class, les produits dérivés, tout ça, et on retourne vraiment à un travail, à une retraite finale.
La France qui se lève tôt.
Etc. Et puis, vous voyez bien qu'il y a une énorme bataille financière aussi derrière, hein, parce que c'est les grands
comptable ces dernières années sur la question de l'évaluation de la valeur. Hein. Est-ce que la valeur, c'est essentiellement le coût historique et la question patrimoniale, ou bien est-ce que la valeur, c'est plutôt la faire valider ou la valeur de marché, hein. Ça a été dur pour ceux qui sont tout à fait dessus. C'est une immense bataille, hein, un peu trop entre experts, sur à la fois les normes comptables et la relation entre comptabilité et finance. Et puis, il y a un deuxième côté qui ne cesse de prendre de l'ampleur, quoi. Qui est de dire, le problème, ce n'est pas tellement d'être un annonceur-offreur, le problème, c'est de réussir à s'insérer dans quelque chose. Oui, à la limite, cette abstraction de ce qui est écrit sur le triangle, il y a une différence entre dire, je suis un offreur, et puis dire, moi je ne suis pas un offreur, ce que je fais c'est que je m'insère dans quelque chose. Ce n'est pas du tout la même posture. Quoi. Bon. Donc c'est la capacité à s'insérer dans les usages des valeurs de commons, hein, de bien collectif. Car c'est l'idée que, si vous voulez, en quelque sorte l'externalité précède à l'offre. Alors ça, évidemment, ça paraît bête, mais vous voyez bien que c'est un imaginaire extrêmement puissant, parce que c'est tout l'imaginaire écologique qui est entièrement nourri par ça, hein, par cette matrice. Et puis ça donne, dans les histoires d'entreprise, le passage, disons, du registre du développement durable à l'éco-conception. Hein, c'est pas du tout la même chose dans l'énergie. C'est dans le développement durable, qu'est-ce qui se passe? Bon, vous consommez, vous savez que votre consommation a des impacts positifs et négatifs, mais ce n'est pas vraiment votre problème, parce que vous prêtez à l'institution, que ce soit à l'entreprise ou le régulateur public, le rôle de corriger ces impacts négatifs. Alors que dans l'éco-conception, c'est le mouvement inverse, vous incorporez directement dans le produit la capacité à limiter les impacts. Vous voyez, on est en train de passer, hein, on sent bien, d'un régime, disons, de développement durable dans lequel les problèmes de régulation, notamment des externalités négatives, sont plutôt macro, à un régime d'éco-conception. Alors, ça devient délamé par le problème de la valeur ajoutée de conception. Bon, et puis, il y a un troisième côté qui est, en quelque sorte, le problème de tout cet imaginaire de l'interactivité. Hein, que de dire, en fait, l'interactivité, c'est un horizon de dépassement de la différence entre l'offre et la demande. Si vous êtes dans un monde d'interactivité complète, si vous voulez, vous n'avez plus à faire de différence entre les stocks d'offres d'un côté et les stocks de demande de l'autre. Hein, et si vous êtes vraiment dans l'interactivité, ça abolit la différence entre l'offre et la demande, en quelque sorte, quoi. Dans l'imaginaire. Hein. Bon, et donc, ça ouvre la voie à toute la question de la singularisation, de la personnalisation, à la simplification de l'accès, la proposition de solutions et le bouquet de services singulier, hyper adapté. Quoi. Ah, voyez bien que c'est, ça n'arrête pas de discuter et de se contredire. Hein. Puisque là, c'est l'économie patrimoniale, disons, hein, classique. Là, vous avez la constitution de valeurs de bien commun et de bien collectif, avec ce qu'on disait un peu hier, c'est-à-dire les valeurs très fortes d'un point de vue conceptuel de non-rivalité, non-excluabilité et puis non-séparabilité, hein, de ces biens collectifs. Alors que là, vous avez le passage, si je caricature, de l'individu au singulier, quoi, de l'individuel au singulier. Hein, ce qui n'est pas la même chose. Pour l'individuel, il y a toujours une substituabilité d'un individu par rapport à un autre. Alors que quand on est dans le singulier, il n'y a plus de substituabilité. Hein. C'est un peu ça le problème. Bon. Alors pour le simplifier, ça, je vous donne un exemple simple. Bon, dans le monde des réseaux, vous voyez bien qu'il y a trois imaginaires qui sont très puissants. Les trois sont très sont en lutte et en même temps en complémentarité. L'imaginaire, disons, le réseau à la papa, quoi. Hein, c'est les bousous, quoi. C'est le Rotary Club, ceci. Le réseau à la papa. Il faut en être, il faut être coopté comme on en est, mais faites club à l'ancienne. Hein. Et puis, vous avez
l'imaginaire du réseau qui fabrique du commons, du commonwealth, quoi. Typiquement, c'est le paradigme de ça, c'est Wikipédia, qui est l'encyclopédie et tout. Mais vous voyez bien que dans Wikipédia, les gens ne signent pas leurs contributions ni leurs articles. Parce qu'ils créent du collectif de façon incrémentale, ils n'arrêtent pas de le déposer, etc. Puis ça, c'est un troisième imaginaire, en quelque sorte, qui est celui de Facebook, quoi. Qui est l'ego casting, la singularisation et tout. Bon, vous voyez bien que les trois sont un peu en lutte, quoi. Hein? Alors, moi, ça m'a pas mal intéressé, j'en dis juste un mot, mais très rapide, parce que j'ai travaillé beaucoup pour le plan stratégique du groupe La Poste. Bon, et en France, c'est le premier employeur français, hein, c'est une grosse entreprise. Bon, La Poste. Bon, alors on a travaillé ensemble avec eux, puis on est arrivé à ça, un peu, cette conclusion-là, vous voyez. C'est-à-dire, c'est un business case, hein, si vous voulez. Bon. Alors, on s'est dit, en fait, il y a plus de trois dimensions. Il y a un capital de confiance, parce que depuis la crise, depuis septembre 2008, les gens de La Poste sont de plus en plus inquiets, parce qu'ils voient que le capital de confiance de la marque de La Poste est de plus en plus élevé. Hein, ils obtiennent des scores en termes de confiance, qui sont démesurés, quoi. À quel point, je ne devrais pas dire ça, hein, ça leur fait peur, quoi. Hein. Et alors, ils prennent tellement de conscience que quoi qu'ils sont en fait. Bon. Et puis.
C'est des Valcar Lénine. Hein, ouais. Qui avait été très impressionné par La Poste en 1905 à son passage à Paris, et qui disait qu'il fallait calquer le fonctionnement de la future, enfin, de la future aussi révolutionnaire, et du parti bolchevique sur La Poste.
Bon, puis de ce côté-là, si vous voulez, ils ont un peu cette question du commun, quoi. Ah, vous avez vu dans les journaux et tout, hein, parce que moi j'ai vu aussi tout le débat sur est-ce que c'est une entreprise privée, une entreprise publique, le changement statutaire qui est la conséquence de ce débat et tout, hein, tout ça. Et puis, le problème principal, comment on passe du statut d'entreprise industrielle au statut d'acteur central de la noosphère. La noosphère.
Bon. Ben, c'est l'ensemble des échanges culturels, intellectuels, linguistiques, relationnels, affectifs, qui concernent les bipèdes à l'été sans plus, humains, c'est-à-dire celui qui partage 98,5% des gènes avec le chimpanzé et 97,5% des gènes avec la mouche drosophile, et néanmoins a une certaine particularité que nous reconnaissons, puisque l'homme est à la fois appartient à la biosphère sur le plan probablement des gènes à 98%, mais il appartient pour 1,5% de gènes restants et la suite à quelque chose d'assez particulier qui est la sphère des échanges culturels, linguistiques, interactifs, etc.
C'est le cognitif, quoi. Hein, c'est ce qu'il y a à l'appel, le capitalisme cognitif.
Quand vous dites l'homme, je suppose que c'est une technologie numérique qui a embrassé également la
femme. Je dis l'homme, le queer, tout ce que vous voulez. Hein. Les gens qui se pensent qu'ils ont un sexe, ceux qui pensent qu'ils n'en ont pas, ceux qui pensent qu'ils en ont deux, n'importe quoi, c'est l'ensemble de ce qui n'est pas chimpanzé ou ce qui est notre plus proche cousin, et toute la suite évidemment des vivants jusqu'au colporte de la métamorphose de Cachemire.
Bon, et puis troisième côté sur lequel on commence alors c'est vraiment un peu projet de tout. Alors, on a appris comme ça. On a appris il y a deux problèmes qui sont les mêmes en fait. Hein. C'est comment convertir les valeurs de proximité spatiale.
Ils sont plus du réseau. Hein. 18 000 grands postes en France.
En valeurs d'accès. Ils sont beaucoup plus temporels que spatiales.
Sachant qu'ils ont été dépouillés grâce à la scission de la Décorange. La Poste a été cassée, hein, puisqu'elle a tel téléphone, et qu'elle a perdu le téléphone, et qu'effectivement, tout ce qui est temporal a été fructifié par Orange.
Et puis du coup, si vous voulez, la question alors un peu alambiquée qu'on s'est posée, j'explique en un mot, c'est ça. Comment situer la convergence des flux numériques et physiques et donner un tiers de conscience centrale du 3.0.
Alors,
on a un 3.0. Qu'est-ce que ça veut dire 3.0?
sublime du jardin.
Oui, mais alors, le 3.0, c'est la même chose que cette histoire-là. Bon, alors le 1.0, vous avez en fait une généralisation de l'accès à l'information. C'est le 1.0. 2.0, il y a une généralisation de l'interactivité. C'est-à-dire, en fait, ce que M. Mitterrand, quelle est l'idée directrice de ce qu'on raconte, c'est un peu le fait que on a de moins en moins, franchement, la différence entre les producteurs d'un côté et les consommateurs de l'autre. C'est-à-dire, cette différence entre les consommateurs d'un côté et les producteurs de l'autre est de plus en plus floue. Et donc, du coup, on est dans. Il y en a un, vous connaissez peut-être de Rifkin, là, il avait appelé ça l'âge de l'accès. Dans l'âge de l'accès, le problème, c'est que les gens deviennent tous des users.
Ce qui correspond à un déclin, si vous voulez, des valeurs de ce qu'on appelle la mousous, la transférabilité des biens, la possession du capital, au profit de l'usage du bien, ou des mousous directs, ou des revenus qu'on peut tirer de l'usage du bien, donc usufruit. Vous dites, c'est ça les valeurs dominantes, beaucoup plus que celui aujourd'hui, celui qui va compter, y compris dans le monde industriel. C'est pas forcément celui qui détient la propriété du capital, des biens matériels, etc. Ça va être plus celui qui contrôle l'accès.
Celui qui contrôle l'accès et
d'où la théorie du lean capital. Le lean capital, si on fait maigrir la part de ce capital énorme qui servait plutôt à l'assurance de transférer au profit des usages. De la captation des usages. Et celui qui se met en position de capter des usages va générer le plus grand flux de revenus. Donc, en termes d'accumulation de capital, il est plus intéressant que la vision patrimoniale qui compte ses machines et son coût d'acquisition historique, ce qu'on appelle la vision donc patrimonialiste et propriétariste, essentiellement liée à la propriété du capital, comme on parle.
Alors, le 3.0, c'est encore un autre truc. C'est ce qui correspond à ce que les gens maintenant appellent un peu le cloud computing. Alors, comment on pourrait le définir? Bon, dans le 2.0, vous avez une pollinisation généralisée, si vous voulez. C'est-à-dire, tout le monde pollinise un peu. Centainement,
prêtez attention aux traces de pollinisation laissées.
Autrement dit, des cookies, techniques dans le langage de ce que vous faites quand vous rendez sur le.
Alors, qu'est-ce que c'est un problème de type 3.0? Bon. C'est la capacité qu'ont les gens à un moment donné à vouloir se réapproprier leur propre cours d'expérience numérique à eux. C'est ça le problème. C'est-à-dire, je donne un exemple hyper simple, moi qui m'avait frappé, je trouvais trop peu commenté. C'est au moment de l'effet de réseau Facebook, de l'effet de réseau qui s'est constitué, je dirais normalement, c'est le réseau classique. Hop, ça commence faiblement, et hop, tout d'un coup, paf, tout le monde se met sur Facebook d'un coup. Bon. À tel point que désormais, Facebook est passé en termes de nombre de clics, de ce qu'on appelle le zigzag, devant
le passé. Bon, aux États-Unis.
Aux États-Unis, oui, aux États-Unis. Bon. Mais, vous voyez bien ce qui s'est passé dans Facebook, il n'y a pas très longtemps, il y a un an et demi, il y a un an. À l'intérieur de Facebook, il y a un autre effet de réseau, un peu avant. Les gens se sont mis à contrôler leur profil. Fonctionnalité qu'ils n'utilisaient pas du tout au début de Facebook. Ah, tout d'un coup, les gens se sont mis à paramétrer les conditions d'accès à leurs informations et à leur profil. Et puis désormais, sur Facebook, pratiquement tout le monde a clôturé son profil. Il y a beaucoup de gens qui ont un profil ouvert. Sofiane, évidemment. Bon, alors ça, c'est un problème de type 3.0. Le problème central du 3.0, c'est quoi? C'est le concept de la personnalité numérique. C'est le problème de la convergence complète de l'ensemble des données personnelles, intimes, administratives, etc., dans un cloud personnel auquel vous avez accès. Quoi. Bon. Mais le truc, c'est que ce truc-là ne peut fonctionner que si vous avez un tiers de confiance très puissant. En gros, vous n'allez pas confier vos données personnelles de tout type à une entreprise commerçante, par exemple, commerciale, ou excessivement commerciale. Et puis vous n'allez pas non plus confier toutes vos données et tout à une entreprise trop hégémonique.
Ni au Google, par exemple.
Bon, donc, il y a quelque chose là qui se passe.
Alors, pour quelqu'un
comme la Poste, par exemple, une opportunité de revenir justement dans les mondes numériques, dans lesquels ils ont toujours été totalement absents. Et puis, toujours, et puis je termine, cette histoire de désir, c'est aussi une toute petite illustration de ce qu'on disait sur le marché de l'emploi. Vous voyez bien cette triangulation dans le marché de l'emploi entre l'emploi statutaire, donc patrimonial, c'est la fonction qui compte plus que la personne, hein, et puis la question de l'activité, exactement ce que racontait Yann sur la formation de la compétence dans l'intermittent du spectacle. Vous voyez, il faut beaucoup d'activité. Et une diversité d'activités pour pouvoir devenir quoi ? Devenir employable. Quoi. Et l'employabilité, c'est un peu le problème, justement, l'équivalence de l'interactivité, si vous voulez, dans le monde du travail. Quoi. Sachant qu'il y a une dissociation de plus en plus forte entre les trois choses.
C'est accumuler le capital personnel qui est constitué, qui est accumulé pour plein de choses et le réseau, de le récupérer, d'en récupérer au moins une partie.
Bon, vous voyez, ça c'était une pub il y a 2 ans, par exemple, pour Adecco, hein, qui est le leader mondial de l'intérim, qui est assez violente comme pub, moi j'avais trouvé, c'était assez violent, quoi. C'était, vous voyez, ils vous mettent un quid d'âme, et puis ce quid d'âme, ils le mettent au même niveau que Gandhi et Coluche, hein, c'est-à-dire en fait, ce qu'ils disent, quoi, c'est le marché de l'emploi est devenu un marché d'exception, et donc un marché de masse. Hein, si vous n'êtes pas, si vous n'avez pas le caractère d'exceptionnalité d'un Gandhi ou d'un Coluche, vous n'avez pas accès au marché de l'emploi.
Vous serez noyé.
C'est assez violent quand même. Hein. Et puis, ils vont même encore plus loin, vous voyez ce qu'ils racontent, c'est qu'ils disent. Alors, donc,
bricoleur,
karatéka, chef comptable. Là, qu'est-ce que c'est ça, karatéka, bricoleur et tout? Bah, c'est les activités du type. C'est ses activités. Mais maintenant avec son emploi. Mais pour avoir son emploi, le type de plus en plus, il va mettre en valeur le fait qu'il est bricoleur.
Votre CV,
Donc, vous voyez, c'est ça le truc. Bon, le problème de l'employabilité, c'est ça. Hein. Il y a quelque chose que je trouve assez violent dans cette pub, mais peut-être que vous ne trouvez pas. Moi, j'ai trouvé très violent. Parce que ça dit vraiment le.
Pour recruter des cerveaux, on a vraiment envie de pénétrer dedans. L'employeur a vraiment envie de pénétrer dedans. Ça peut être l'épreuve du soin élastique, ça peut être quelles sont la nature de vos relations sexuelles avec vos partenaires, enfin des trucs invraisemblables. Et qui maintenant sont posés couramment par des employeurs qui estiment que, et ils réagissent d'autant plus qu'il y a cette espèce de rupture, si vous voulez, du contrat à long terme. C'est-à-dire que plus le contrat se spotise, c'est-à-dire devient un marché spot, court, plus l'employeur il a des problèmes d'incertitude sur la chose. Donc il installe une relation incertaine et pour s'assurer face à la relation incertaine, il fait appel de plus en plus à des cabinets qui vont au fond plus recruter le service d'une personne dans un temps donné, mais recruter la personne, lui c'est votre personnalité qui nous intéresse, c'est le blabla, et donc du coup c'est la personnalité d'un cerveau c'est évidemment pas le fait qu'il est chef comptable, tout le monde s'en fout, on va dire à un chef comptable on s'en fout, on en a autant qu'on en veut, et puis on va dire à quelqu'un vous avez une langue, on se fiche de la langue quelle est la deuxième langue, vous avez deux langues on vous dit quelle est la troisième, etc., etc. Donc les gens vivent ça comme une pas comme un fait qu'ils sont progressivement littéralement flanqués à poil à chaque entretien d'embauche.
C'est
tout un peu paradoxal puisque effectivement l'embauche est précaire justement.
Non, parce que quelqu'un vous dira en finance que du coup la possibilité de se gourer, si vous voulez, le contrat étant à court terme, l'individu peut le rompre à tout moment. Et donc l'entreprise, elle a ce problème de la rupture du contrat unilatéral par l'employé. Elle aimerait bien empêcher, mais là on tomberait dans le servage.
Alors vous avez raison, l'emploi est précaire, mais. Mais moi, ce que
le risque est très fort.
Vous avez raison, l'emploi est précaire, mais ce que font les gens, c'est qu'ils font des calculs d'employabilité. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez des gens qui se fichent pas mal de la fonction qu'ils occupent, d'être en CDI, en CDD, en freelance, en consultant, ils s'en fichent. Parce qu'ils savent, en quelque sorte, qu'ils ont une forte employabilité, et que même en diversifiant les types de statuts qu'ils occupent, ils continuent d'augmenter leur capital d'employabilité. Donc en fait, ces gens-là, ils sortent sur la précarité, si vous voulez, et ils s'en fichent en fait. Hein. Et puis, inversement, vous avez des gens qui subissent très fortement la question d'employabilité.
et qui eux vivent effectivement la précarité comme une chose de vraiment substantielle et consubstantielle à eux.
Pour trouver exactement ce qu'on avait dit tout à l'heure pour les CIR, entre ceux qui sont coincés dans une comparabilité infinie, un benchmarking à tous les niveaux, à tous les étages, et ceux qui se rendent incomparables, au sens qu'ils se construisent une singularité qui défie la norme d'appréciation.
Le concept
qui se présente comme un tout à prendre ou à laisser.
Le concept clé là-dessus, mais on ne va pas soulever, c'est le concept de substituabilité. Hein, soit vous avez, alors c'est Yann a énormément fait là-dessus, avec toute l'histoire de ce concept, en fait, un peu, parce que l'esclavage, le salariat, le post-salariat, bon. Vous faites, dans l'économie industrielle, donc, vous avez vraiment de fortes substituabilités de l'emploi. Hein, c'est-à-dire que c'est la machine, c'est pas tellement la personne qui utilise la machine.
Alors
que dans le monde cognitif, dans le capitalisme cognitif, on tend de plus en plus à une insubstituabilité des gens. Vous le savez bien, hein, j'imagine d'ailleurs, c'est dans la vie concrète. Quand vous êtes dans une équipe, quand quelqu'un quitte l'équipe, c'est pas quelqu'un, c'est irremplaçable. Vous allez le remplacer, mais malgré tout, c'est irremplaçable, etc. C'est ça. Bon, alors je termine juste là-dessus. Parce qu'on déborde et tout. Il y a une lutte quand même, je voudrais quand même mettre des mots dessus, il y a quand même une lutte très forte entre ces trois capitalismes. En haut, vous avez le capitalisme appelé patrimonial, vous avez la réaction industrialiste qui est très forte en ce moment, par exemple, mais qu'on peut défendre, hein, on peut comprendre aussi ce qu'il raconte. Et puis, vous avez le capitalisme. Moi, alors que si Yann me permet de dire, qu'il appelle lui le capitalisme cognitif, qui serait plutôt celui-là, si vous voulez. Et puis, vous avez un troisième capitalisme, moi j'appelle ça le design capitalisme. Hein, le design capitalisme.
Je continue, après je vais faire un commentaire.
Bon. Qui est une espèce de troisième truc qui s'intéresse davantage à ça. Hein. Et puis, hein, les trois sont en interaction. Quoi.
Ouais. Alors, bon, donc là, je vais te faire une réponse très égalienne. C'est trois moments d'une même chose.
Et je suis d'accord aussi.
Mais... C'est trois moments d'une même chose, parce que ce qui est important dans l'histoire, c'est que vous avez de faire, c'est le circuit, c'est le sens du circuit.
Oui.
Hein, ça tourne le sens des aiguilles d'une montre, ou ça tourne un sens inverse des aiguilles d'une montre, selon d'ailleurs peut-être des configurations qu'on peut avoir avec les hautes et basses pressions.
Oui.
Reprendre la météorologie. C'est clair que le capitalisme cognitif a besoin que vous preniez Google, ou que vous preniez Facebook, ou que vous preniez Second Life, ou que vous preniez, j'allais dire, des industries high-tech qui reposent sur les brevets, IBM, qui a un portefeuille de 12 000 brevets. Il a besoin d'une activité des biens communs. Il a besoin de l'intelligence collective. Il a besoin des cerveaux de cette activité raisonnable et réseautale. Bon, général. Mais son problème, comme on l'a vu, comme je l'ai dit hier et comme Antoine l'a expliqué, c'est qu'en réalité, ces biens communs ont une fâcheuse, posent un certain nombre de problèmes de réappropriation privative de modèles économiques. Et je dirais que jamais la contradiction est aussi forte que dans la production de ces biens cognitifs, notamment ça prend la forme de la recherche fondamentale, de la recherche de la découverte versus la brevetisation ou sa transformation en économie appliquée industrielle. Par exemple, si vous voulez, vous avez un mouvement de pression qui a commencé dans les années 80, qui est peut-être en train de s'achever maintenant, qui a été porté par les États-Unis face à la concurrence japonaise, c'était de considérer que les Japonais et l'Allemagne, en général le restant du monde, profitaient du parapluie militaire américain pour développer des activités d'exploitation des recherches appliquées et laissant aux États-Unis l'investissement dans la recherche fondamentale, ramasser les brevets. Donc les États-Unis, à partir de 80, ont inversé la chose, et ils l'ont fait à cause du numérique, à cause de l'intégration croissante de la recherche fondamentale et de ses applications, en, au fond, tentant de mettre des brevets sur des choses que nous appellerions encore du langage. Par exemple, les logiciels. Les logiciels ont été annexés au droit d'auteur, comme vous le savez, puis annexé au brevet. Vous avez les deux qui fonctionnent aujourd'hui aux États-Unis. Vous savez que l'Europe et les États-Unis ont fait une terrible pression sur le Japon pour obliger le Japon à se rallier à ça. L'Europe a tenu bon parce qu'il y avait déjà une culture du logiciel libre. Elle a dit on ne peut pas breveter des algorithmes. Des algorithmes peuvent rester secrets, c'est ce que fait Google, c'est ce que font un certain nombre d'entreprises quand elles ont découvert des choses de valorisation intellectuelle. Par exemple, nous, on a une discipline neuve de l'UTC qui s'appelle IntelliTech, qui a fait des tas de choses, notamment qui a amené plus en plein d'informaticiens dans le monde à faire des programmes de parquage automatique des véhicules, d'évaluation, enfin, X-Practice, X-Part, etc. Tout ça, c'est des algorithmes qui sont protégés par le secret, comme Google. Ça, c'est une méthode. Le secret, c'est possible. En revanche, breveter, ça pose des problèmes considérables et droit d'auteur aussi. Donc, le problème, c'est que ces biens communs qui apparaissent, parce qu'ils apparaissent là aussi, Facebook, et ils apparaissent même là, ils ont toujours apparu dans la production littéraire et artistique, comme vous le savez, qui tombe dans le domaine public au bout d'un certain temps, hein, selon les termes du droit de la propriété. Et là, encore plus, à travers les trucs Creative Commons ou Open Source. Donc, le problème, c'est comment traduire ces biens communs qui interviennent de plus en plus fréquemment dans la chaîne de la valeur et qui, normalement, créent une ouverture, comment les réencoder dans un système compatible avec un business model ou un modèle qui tienne debout si on ne veut pas faire appel simplement à la subvention publique. Et là, effectivement, on s'aperçoit que c'est peut-être en ça que Antoine a raison de souligner ce moment du design. Capitaliste qui est une tentative de faire tourner la machine, c'est-à-dire d'utiliser le potentiel de ça, d'utiliser le potentiel de singularisation des gens pour reconduire un modèle. N'oubliez pas que Facebook a été, Microsoft a tenté de mettre la main dessus et en a offert 15 milliards de dollars. Et ça stupéfait quand ça a été annoncé, tous les gens se sont écarquillés les yeux et ont dit mais comment un truc pareil peut-il valoir 15 milliards de dollars? C'était l'époque avant la crise, hein, parce que ce qu'Antoine vous a pas dit, c'est que 2007, Google n'est encore qu'à 70 milliards de capitalisation boursière. 2010, Google est à 189 même, enfin ça monte de jour en jour. Donc, dans la crise, les valeurs de l'immatériel ont encore monté.
Oui.
Elles ont encore monté, elles ont
c'est
encore
très, c'est très important de le dire.
Et ça, c'est contrairement aux gens et aux mouvements purement idéologiques de retour à l'industrialisation, la connerie qu'on a entendue en France, sur le fait que la France devait rester une grande puissance industrielle, comme par hasard, sur des choses, des projets qui sont complètement obsolètes. C'est pas, on pourrait dire, la France va conquérir des positions de pointe sur les nanotechnologies, sur les industries du spectacle, sur la communication, l'interactivité, etc. Et elle va laisser la fabrication des aciers spéciaux, et on s'est déjà fait, à Mittal, hein, qui a bouffé Arcelor, en 233 mouvements, etc. Eh bien non, parce que finalement, on vous dit, mais non, ce qu'il faut, c'est que les continentales puissent être là et qu'on puisse continuer à avoir de l'emploi industriel, alors qu'en France, il y a 1000 emplois par jour qui disparaissent en ce moment. Vous vous doutez bien que ce fragment industriel, c'est un tout petit morceau qui fait beaucoup parler de bruit. De lui, c'est une sorte de revanche des années 70. C'est comme si les trucs qui n'ont pas abouti dans les années 70 aboutissaient 30 ans après. Mais en revanche, ce dont on ne parle pas, c'est les milliers d'emplois qui valsent en ce moment dans des secteurs producteurs de nouvelles technologies, de publicité, justement, la creative class a été très frappée par l'espèce d'arrêt qu'il y a eu à partir de 2008, janvier 2008, tout s'est arrêté. Or, comme elle compte, elle est l'élément sous-traitant de tout l'appareil productif, notamment des très grands groupes comme des start-up, il y a eu une espèce de tassement dans la croissance. C'est pas parce qu'on a vendu moins de pneus continentales qu'on a fait moins 4% du PIB. C'est évidemment pas ça. Et ça, c'est complètement planqué. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de ça. Donc, vous voyez bien qu'au fond, il y a un mouvement là constant qui peut tourner dans différents sens. Et ce qui est bien, moi je pense que c'est le mouvement d'ensemble qui définit le capitalisme cognitif, qui est une compréhension des transformations productives et interactives générales, et qui tente de réencoder ça d'une façon propriétaire d'un moment à un autre dans des modèles économiques. Et donc les différentes modalités sont autant de modèles. Et notamment, Wikipédia est une possibilité aussi plus compliquée qui fonctionnera probablement avec des subventions. Il y aura des difficultés à fonctionner par subvention.
Voilà. Moi je trouve que c'est une assez belle conclusion du propos qu'on voulait avoir, même si il y avait des choses d'autres choses, mais on peut y revenir, il n'y a aucun problème. Et donc.
Okay. Oui, je voudrais que vous soyez un peu plus détaillé sur la notion de légitimité. Mm-hmm. D'où elle tire sa racine, par exemple, j'ai évoqué que vous avez travaillé chez Louis Vuitton ou des grandes marques comme ça.
la légitimité d'un Hermès, c'est le fait que l'arrière-grand-père faisait des selles à la main. Et ça me passe, ça marche encore, mais à un moment donné, je pense que ça va, la légitimité doit se matérialiser dans la qualité des produits qu'ils offrent.
C'est, le cas
enfin, c'est toujours le cas, ils offrent. Et donc c'est ce point-là, jusqu'où peut-on aller dans la virtualisation de la légitimité du ton, moi, ne touche plus que des Chinois, que des adolescents.
C'est... Bon, d'abord, je suis assez d'accord avec vous sur ces marques-là, et puis... Comment répondre à cette question ? Ah, c'est une grande question.
Je peux vous donner la racine de ma question, parce que le conseil d'administration d'une marque de pierre qui est la propriété d'une communauté frappiste.
Ah oui. D'accord.
Et donc, la légitimité, on se la pose de manière profonde, et surtout dans les transports à pied, puisqu'il y a plusieurs communautés.
Il y aura plusieurs communautés.
Ah, oui, c'est un moment qui se dégage là.
Non, vous savez, le 11e siècle, les communautés des ordres monastiques ont constitué.
Donc, le point de la légitimité, pour l'instant, j'ai l'impression que la légitimité, elle est vraiment très très forte, parce qu'il y a plus de près. Et on voit très bien avec nos confrères concurrents qui ont des noms d'abbayes, mais qui n'existent quasi plus, qui sont sous-traités.
Alors, bon, c'est une très belle question parce que c'est un truc que moi je ne connais pas dans les détails, hein, mais je me rappelle dans ce secteur-là, c'est bien là, je suis vraiment des spiritueux. Je prends comme exemple les histoires des vins, hein, les appellations du vin, les éponges de votre problème de bière, là. Et puis je pense que vous avez vu le film qu'il y avait eu il y a quelques années sur les vins californiens.
Mondino.
Bon, et là, qu'est-ce qu'a été la stratégie des vins à la fois californiens, australiens, sud-américains, par rapport, versus principalement d'ailleurs les vins français. Bon, vous voyez bien que la question est assez. En fait, la question est très profonde parce que c'était une question alors de marketing stratégique, si on dit une chose, qui a consisté à quoi ? D'un côté, vous avez les vins français qui étaient rivés à la question des appellations d'origine contrôlée et à la question des noms de domaine. Ce qui crée quoi ? Ce qui crée une économie d'amateurs extrêmement exigeante. Hein ? C'est-à-dire pour s'y retrouver, si vous voulez, dans. Les noms de châteaux de vins français, et en rajoutant en plus la connaissance des années et des variations de la qualité du produit selon les années, en fait, il faut devenir pratiquement un œnologue professionnel. Quoi. C'est à la fois un hobby, une activité, au sens qu'on en parlait tout à l'heure, et en même temps, ce qui requiert beaucoup d'expérience. Et puis là-dedans débarque très rapidement, hein, c'est très vite. À la fois le rebranding des vins californiens, qui existe depuis très longtemps, hein, c'est les cépages californiens qui d'ailleurs ont reboisé les vignobles français au moment du phylloxéra. Donc, en un sens, les cépages français, c'est les vins beaucoup de Californie. Bon, c'est ça que je ferme la parenthèse. Face à ça, les vins français ont des gigantesques problèmes, se débarrassent encore de temps. Puisque la stratégie de tous les vins du Nouveau Monde, comme on dit très vite, ça a été de capitaliser sur les appellations de cépage. Bon. Et non pas sur les appellations de domaine. Mais oui, mais ça change tout. Hein, parce que, évidemment, ça change complètement la question de la légitimité. Mais pourquoi je vous dis ça ? Parce que c'est un peu le problème, justement. C'est pas pour repasser des slides exprès. Mais c'est un peu le problème de ce qu'on mentionnait hier, c'est-à-dire le problème de la captation des externalités. Et vous voyez ce qui se passe dans le monde des marques. Ça se passe un peu comme ça, quoi. C'est-à-dire, en général, la question de la légitimité, on la pose comme ça. C'est-à-dire, c'est beaucoup la question de la qualité extérieure du produit, etc. Et puis,
on capte aussi un peu d'implicite dans la marque. Même beaucoup d'implicite.
Ah, et puis, il y a quelque chose qui se passe avec la globalisation. Alors, moi, j'ai vécu ça dans le luxe, notamment, de façon concrète. C'est qu'en gros, vous êtes passé de ces attributs-là. Alors, ça, c'est très vrai pour le parent, ce que vous disiez de Louis Vuitton. C'est-à-dire le problème de la qualité du produit, le problème du nombre d'heures travaillées incorporées dans le produit et tout. Hein, en fait, une économie de l'artisanat, de l'hyper-artisanat, quoi, qui sublime les valeurs de l'artisanat, en termes de légitimité. Ah, tout d'un coup, parce que ça s'est fait très vite, ça s'est inversé complètement, hein, et tout d'un coup, c'est devenu, vous voyez, je mets Art Basel Miami. Miami Beach, hein, parce que vous avez vu comment les marques, les global brands qui sont constituées après les années de la pandémie, elles se sont mises à capter tout ce qui se passait dans l'art contemporain, notamment, c'est en très éloigné de leur fonds de commerce, et puis elles l'incorporaient dans les produits. Mais du coup, c'est avec à la fois, si vous voulez, c'est une espèce de captation justement de la creative class, quoi, enfin dans ses expressions les plus fortes, pour relégitimer la question notamment du luxe. Hein? Moi, j'avais dû avoir assez un peu impur que du coup, il y a un modèle économique derrière, parce qu'ils sont passés du modèle de la justification du prix au modèle de la cote. Hein, il y a une grande différence entre un prix et une cote. Hein. Évidemment, une cote, c'est beaucoup plus de conventions. Donc, vous pouvez faire beaucoup plus de marge. Hein. Bon. Voilà, enfin, moi, c'est comme ça que je vous réponds à la question de la légitimité. À la fois, il y a ce phénomène d'augmentation, si vous voulez, de la surface, de ce que les marques veulent pouvoir s'approprier.
Il faudrait que tu continues, parce qu'en réalité... je ne sais pas si tu as encore un autre slide, pas sur la santé. Voilà.
oui, là, c'est frappant pendant les liens.
Beaucoup de gens posent la question, des marques comme vous la posez là. Je crois que finalement, c'est assez indifférent. C'est-à-dire, on a vu des cas où la marque se détachait de sa base historique réelle sans problème, et des cas où, au contraire, ça lui était mortel. J'ai tendance à penser que la clé du problème n'est pas là-haut, au-dessus, elle est en dessous. Des bières se cassent la gueule ou pas, ça a quelque chose à voir avec ce à quoi elles s'identifient. Les bières se sont identifiées pendant très longtemps à leur pointe d'amertume, apaiser la soif, la fraîcheur, la convivialité. D'accord ? Et elles ont écarté totalement les questions de santé. Alors, je ne sais pas si dans la guerre bière-vin, il y a eu à un moment donné le fait qu'on a pu dire que la bière était moins en teneur d'alcool que le vin, ça j'en sais rien. Je ne suis pas spécialiste de la question. Mais en revanche, tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, dans l'alimentaire, il y a des ravages qui s'opèrent sur le fait que les entreprises qui arrivent dans l'alimentaire à réussir sont celles qui ont, au fond, capté une externalité très profonde qui est la santé. La construction de la santé par les gens et le fait que, je parle pour des produits de grande consommation, je ne suis pas en train de parler de produits de luxe. Et il y a des marques qui ont réussi effectivement à capter de façon indue ou pas indue, c'est simplement un phénomène d'opinion qu'on constate.
Il suffit d'aller devant un rayon de supermarché,
capté par Danone, machin, etc., et prolongé par l'opération avec Yunus au Bangladesh. Ça, c'est des trucs très importants parce que c'est macroscopique par rapport à ce qui se passait dans la sphère émergée. Alors, celles qui ont très bien joué, c'est celles qui ont joué à la fois la sphère d'en haut, mais qui ont incorporé la sphère immergée de l'iceberg et qui ont réussi à la faire apparaître. Parce que du coup, les consommateurs ont eu un effet de révélation. C'est-à-dire, ils ont cru que ils découvraient le fil à couper le beurre, et ils n'ont pas questionné d'ailleurs l'association. Activa et Danone, il a fallu qu'ils se fassent rappeler, qu'ils se fassent interdire l'utilisation du label vert, comme plein de produits agricoles, pour qu'on se rende compte qu'effectivement la captation était plus que légèrement indue. Alors, je ne sais pas si dans ces histoires, si vous voulez, et il se passe la même chose actuellement sur le détachement des marques. Actuellement, par exemple, les vignobles de Champagne ont profité du réchauffement climatique pour mener des opérations d'achat de terrains vinicoles, il me semble, dans le nord de la France et en Belgique, et ils reluquent un bout de la vallée du Rhin, parce qu'ils prévoient qu'effectivement, avec le réchauffement climatique, il y a un certain nombre de conditions qui seront plus remplies pour la cueillette des vins de Champagne, si vous voulez, la cueillette du vignoble de Champagne. Et ils ont profité de cette affaire, qui est le réchauffement climatique, la légitimité de réagir sur les cultures, pour dépasser le problème, qui est un problème récurrent du Champagne, qui est l'exiguïté du territoire, du terroir, par rapport à l'appellation contrôlée. Comme pour l'histoire du Roquefort, le lait, etc. Et il y a beaucoup de marques qui décomposent, plus elles renforcent la marque patrimonialement comme marque, plus ça leur donne de possibilités d'action, j'allais dire, dans la composition du produit et dans le fait qu'elles font appel à des vignobles ou à du lait pour le Roquefort, là, qui n'est plus du terroir, du terroir. C'est-à-dire que finalement, c'est seulement la marque d'assemblage finale qui est ça. Alors, par exemple, c'est vrai que les Bordeaux, ils ont un problème majeur parce que les Bordeaux sont par domaine. Ça n'est pas le cas du Bourgogne, parce que le Bourgogne est un vin de négociant, c'est-à-dire depuis la nuit des temps, c'est pour ça qu'il se conserve moins bien. Le Bourgogne est fait par le négociant qui mélange des cépages, des crus, des là et des années. Ce qui est une hérésie totale pour le Bordeaux, qu'on ne peut pas faire. Et donc, j'allais dire que toutes ces combinaisons, il y a une multiplicité, et je ne le poserai pas en termes, la légitimité ne provient pas exclusivement d'un apanage, d'un fief, parce que souvent, ça, c'est une réinvention de la tradition. La territorialisation de la marque est une pure invention de l'âge industriel, par exemple de Napoléon. C'est sous Napoléon III que le camembert, qui est en fait un fromage de Lorraine, est amené en Normandie, transformé en produit étendard de la Normandie. Si vous êtes des Normands, le camembert, il ne sort pas de la Bretagne, de la Normandie, mais de la Lorraine. C'est la Révolution, etc. Or, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que l'historien Osborne a appelé l'invention de la tradition. Une tradition dont les traditions territoriales et gastronomiques sont des constructions inventées très largement. Très, très largement. Donc, je pense que par rapport à cette histoire de l'Est, ça vous donne du goût, enfin de l'Est ou d'autre chose, de bière, j'en sais rien. Je ne suis pas un connaisseur de bière, je vais vous dire. De toute façon, je ne peux plus en boire, donc je laisse tomber. Mais c'est pas une. Il y a plus de jeu qu'on pense, et la légitimité ne provient pas de l'ancrage territorial, à mon sens. C'est un élément, mais c'est un élément seulement qui joue moins maintenant dans la mesure où elles arrivent à capter d'autres externalités. Je ne sais pas si ça répond. Je ne sais pas si c'est un sujet.
Mais une légitimité entre laquelle la franchise va se faire, va s'opérer très clairement aussi d'un point de vue local, particulier du point de vue local, et de la force qui est représentée aujourd'hui par rapport au grand groupe international. Aujourd'hui, on entend parler dans cette région-là, en tous les cas, qu'on boit ce produit particulier parce qu'on ne veut plus participer à la globalisation. Et donc, là, ça, la légitimité est en train de la prendre à partir de sa base aussi et de sa mission.
Le sujet, c'était que vous indiquiez qu'il y a une valeur énorme à cette légitimité. Vous essayez de mettre une valeur et qui est finalement se matérialise par un surcoût au consommateur.
Ça mène à des choses qu'on a évoquées hier et qu'il faut peut-être évoquer aujourd'hui à nouveau, c'est les externalités, effectivement, dont on a un peu parlé aujourd'hui, leur rôle tellement important dans la valeur, mais tellement important, parfois on ne sait pas les valoriser.
Oui, c'est des économies. Alors, dans des économies complexes, vous avez de l'interaction. Et vous avez que la somme des parties, enfin que le tout n'est pas réductible à la somme des parties et des valeurs ajoutées de chacune des parties. Donc c'est ce qu'Antoine a développé sur le début. Mais ça veut dire que vous avez des externalités simples, qui est que si vous avez une transaction qui a lieu constamment entre deux agents, qui elle est soldée monétairement, etc., il y a un marché, hein, vous pouvez avoir des effets non désirés ou désirés d'ailleurs, ou dont les gens se fichent. Les agents s'en fichent et qui créent des dommages ou qui créent des aménités qui ne sont pas comptabilisées monétairement. ce phénomène-là est de plus en plus dominant au fur et à mesure qu'on se dirige vers une économie hyper complexe dans laquelle, j'allais dire, tout ressemble à une usine à gaz. Vous appuyez à un endroit, vous pensez que vous attendez des effets à un autre endroit de sortie, et en fait, il y en a 4 ou 5 qui se passent et que vous n'attendiez pas. Bon. Alors, à partir du moment où vous pouvez construire si vous voulez, il y a des problèmes classiques qui ont été posés par l'économiste Ronald Coase, qui a en deux articles de 40 pages et non formalisé gagné le prix Nobel. C'est le seul exemple. C'est une rentabilité fabuleuse, l'article pour le prix Nobel. C'est un vieux monsieur qui doit maintenant avoir 95 ans. Qui a écrit La nature de la firme en 1937 et qui a écrit Les social costs, les coûts sociaux en 1959. Et qui s'occupait justement du problème du modèle économique, de choses qui sont financées, de biens publics ou de biens communs comme les radios. Quel est le modèle de fonctionnement d'une radio, ou comment régler les conflits de copropriétaires, ou comment régler les conflits de l'ombre que fait une tour dans une ville par rapport à ce qui existait avant quand ce n'était pas construit, etc. Et donc, ce que dit Coase, c'est que vous pouvez considérer que l'intervention publique va déterminer des liabilities, c'est-à-dire des dommages, va établir ou pas s'il y a des dommages lésés, etc. Il va y avoir une réparation ou pas, il va y avoir une internalisation ou pas par le juge, au sens où, par exemple, on prend l'exemple très important aux États-Unis, des incendies de plaine déclenchés par le transport de bétail dans des locomotives à charbon entre la côte du Midwest et les États-Unis, enfin Chicago, qui régulièrement brûlait des centaines de milliers d'hectares de blé, de prairies, etc. Les agriculteurs se sont plaints, et donc il a fallu à ce moment-là, les deux agents qui avaient les éleveurs et la compagnie de chemin de fer ou les bouchers qui commandaient pour les abattages le transport de bétail se sont retrouvés au banc des accusés et le juge avait le choix entre plusieurs façons, déclarer il n'y a pas lieu de juger, il n'y a pas de dommages, etc. C'est les orages de chaleur, dire que c'est la responsabilité de la compagnie de chemin de fer de créer les lisières et de nettoyer le bord de voie pour pas que ça prenne feu, ou c'est la compagnie de chemin de fer qui doit changer ses locomotives de façon à ce qu'elles n'expédient pas les escarmines de charbon, ou c'est que, systématiquement les deux qui vont payer les dommages chaque fois qu'il y a des dommages. Bon. Et ces éléments-là, on voit très bien que c'est la vision que tous les gens ont. Il y a des externalités de pollution dont on n'a pas tenu compte, qu'il faut calculer maintenant, il faut les répartir. Soit c'est la collectivité globale qui les paye, soit c'est les éleveurs de porcs bretons qui vont payer les infiltrations de lisier qui nitratisent la couche, la nappe phréatique. Donc on va exiger qu'ils aient, c'était la loi Bollard-Payère qui avait lancé le ministre Voynet quand il était gouvernement, qui exige que l'eau que vous utilisez, vous la rendez dans la rivière aussi propre que vous l'avez utilisée, c'est-à-dire que vous avez une mini-centrale d'épuration. C'est-à-dire que c'est le principe pollueur-payeur. Bon, ça, vous internalisez, tout le monde comprend à peu près ce que ça veut dire. Mais il y a des externalités beaucoup plus complexes que vous n'arrivez pas à internaliser. Par exemple, j'ai pris l'exemple de la pollinisation hier, vous ne pouvez pas internaliser, ou très peu, ou pas complètement, le travail fait par les abeilles, qui est beaucoup plus important que ce qu'elles rapportent en miel et en cire, mais qui est tout simplement le travail de pollinisation des cultures agro-industrielles, des cultures artisanales et enfin de la nature sauvage. Il y a un rapport à peu près de 1 à 351 en termes de valeur économique. Donc si vous voulez, la pollinisation n'est pas techniquement faisable par nous. Nous ne pouvons pas nous savons pas chimiquement nous substituer aux abeilles pour polliniser. Résultat, on peut dire que la pollinisation est hors de prix ou sans prix, c'est-à-dire elle est sans prix au sens où elle a une valeur voisine de l'infini, donc on ne peut pas mettre un prix dessus. Et on se met d'accord qu'on ne peut pas mettre un prix dessus. Comme on se met d'accord au fond dans notre société pour ne pas mettre un prix sur le travail affectif des parents dans l'élevage des enfants, parce que si on mettait un prix dessus, je crois qu'il faudrait effectivement donner 2 à 3 fois le salaire moyen au travail que font les femmes d'élevage des enfants pour éviter que les enfants deviennent des monstres, trucides 250 personnes, deviennent des psychopathes, etc. Or, c'est fondamental. C'est ça qui déclenche la sociabilité cruciale. Donc à ce moment-là, pour ces externalités hors prix ou sans prix, comment on se débrouille? Comment on se débrouille? Alors, on les intègre d'une façon, on peut les intégrer dans la société d'une façon symbolique. Par exemple, la société a décidé que la valeur de la vie n'était pas brevetable. On ne peut pas breveter le vivant. C'est une des bases de la théorie des droits de propriété. des droits de propriété, même sous le régime industriel. On a des certificats d'obtention végétale, on n'a pas les brevetages du vivant. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, c'est pas qu'on n'a pas envie de breveter le maïs, machin, etc. C'est tout simplement parce que le jour où on brevette le vivant, on arrive directement au bipède à dépuis sans brume que nous sommes, donc on arrive au clonage, donc on arrive au raélien, donc ça pose un sérieux problème de dire que le vivant est brevetable. Ça pose un sérieux problème éthique de dire qu'on peut travailler sur les cellules souches et en faire ce qu'on veut. On peut les prélever comme on veut, etc. Donc il y a tout, c'est la bioéthique, il y a tout un débat pour tracer les limites de ce qui est marchandisable, de ce qui n'est pas marchandisable. Et toute société, en fait, détermine ce qui est marchandisable, de ce qui n'est pas marchandisable. Et par exemple, la société salariale industrielle, du capitalisme industriel, a décrété, à la différence de la précédente, que désormais, on ne pourrait pas obliger les gens à accomplir une tâche de travail dépendant en esclavagisant leur corps et leur personne juridique. C'est l'interdiction du marchandage qui est une des bases du salariat. On a décidé, comme ça, un beau jour, on a décidé on ne peut plus acheter, vendre des personnes. Comme ça. Donc la société a décidé ça. Et sur le vivant, il y a une énorme discussion pour savoir si on peut ou pas, dans quelle mesure, breveter le vivant. Est-ce qu'on peut manipuler des plants modifiés, etc. Pour des raisons techniques, est-ce qu'on peut le faire, est-ce qu'on ne peut pas le faire, est-ce qu'il y a des problèmes éthiques qui se posent, est-ce qu'il y a des problèmes, etc. Bon, alors, ces frontières, ces limites, si vous voulez, montrent que les externalités ne sont pas toutes du même niveau. C'est-à-dire que vous avez des externalités, qu'elles soient positives ou négatives, vous les intégrez. Vous allez dire, par exemple, que quand une entreprise, c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure pour les entreprises de télévision qui visiblement ont tiré la couverture un peu loin, c'est-à-dire qui ont réussi à faire travailler gratis tout le monde, des tas de gens qu'elles ont exploités honteusement. Alors à un moment donné, les pouvoirs publics, le droit dit ben non, on est désolé, on requalifie votre prestation en contrat de travail et vous avez un employeur donc vous avez des droits et l'employeur a des devoirs par rapport à vous. En revanche, est-ce que ça a un sens de dire que les 16 millions de cliqueurs par seconde qui travaillent pour Google indirectement vont être considérés comme des salariés et Google va devoir les payer? Non. Non. C'est-à-dire que, est-ce que ça a un sens que le réseau, l'activité raisonnable des gens soit utilisé par le capitalisme cognitif, que ce soit dans Wikipédia qui ne fait pas de produits marchands, mais de Facebook qui en fait et de Google qui en fait, dans quelle mesure les gens vont tenter de se réapproprier d'une partie de ça, hein, ça existe, c'est-à-dire qu'il y a des rémunérations de contributions qui ne sont pas des rémunérations salariées. Tout ça, c'est des questions importantes et j'ai l'impression qu'il ne faut pas écraser toutes les externalités les unes sur les autres et il faut arriver à les tamiser.
À propos des externalités, on a beaucoup parlé de comment prendre en compte les externalités dans le bilan financier, etc. Mais j'ai plutôt une question sur comment agir sur les externalités et finalement qui est le leader sur les externalités. Parce qu'on parlait des marques, je comprends que les marques essayent de capter les forces intellectuelles, mais est-ce que finalement on n'est pas dans un monde où ce ne sont plus les marques qui réellement se forment, mais c'est plutôt les membres de ces consommateurs, de ces utilisateurs, qui d'une manière peut-être organique et pas forcément rationnelle, va se cristalliser autour de certaines marques sans que finalement les directeurs des marques aient tellement d'influence. Je dirais que leur rôle plutôt, c'est de se rendre, c'est plutôt un rôle de réponse. Quand ils constatent que leur marque attire, ou en tout cas est dans une situation où les externalités sont importantes, eh bien à ce moment-là, comprennent ce qui se passe pour pouvoir conserver cet élément. Mais est-ce que, quel est de nos jours l'ampleur, quel est le réel pouvoir des responsables des marques dans ce nouveau système?
Alors, c'est un peu ce qu'on essaie de dire sur les industries qui a été schématisé ici, c'est-à-dire à la fois tout ce que vient de dire Yann sur les... Les différents niveaux d'externalité, le fait qu'il n'y a pas d'internalisation possible de toutes les externalités, etc. Et puis en même temps, ce mouvement comme ça, très profond, là, de mise au travail, en quelque sorte, de ces externalités, si je schématise. Hein. Et puis, c'est un peu ce qu'on évoquait très rapidement hier, le rêve, si vous voulez, de tous les directeurs du marketing, aujourd'hui, enfin moi je fais le pari, si on faisait un sondage chez eux, je parle de l'art des grandes marques, donc celle que vous évoquez, c'est d'apparaître comme le résultat de ça.
Est-ce que c'est un rêve ou si c'est vraiment réalisable?
Non. Évidemment que ce n'est pas réalisable, mais elles essayent de mimer ça. Hein? C'est-à-dire, elles essayent de faire comme si elles étaient le résultat de communautés d'utilisateurs pratiquement autogérées. Quoi. Comme si elles étaient elles-mêmes le résultat de ça. Hein? Donc, du coup, elles dépensent des budgets considérables, qui d'ailleurs, ça me, enfin, moi, empiriquement, ce que j'ai vu dans les métiers de la pub, c'est que pour l'instant, ça ne fonctionne pas, ça ne crée pas d'audience. Hein? Mais elles dépensent des budgets considérables pour créer des plateformes justement accueillant la créativité des gens, de formes de discussion, de machin, etc. En fait, c'est des audiences très faibles. Hein. Et il n'y a pas encore, par exemple, d'émergence pour aller au bout de ce que vous dites, mais peut-être ça arrivera, je ne sais pas, de médias de masse, mais avec ces nouveaux médias qui sont les réseaux et la délinéarisation du temps d'attention des gens, etc., qui viennent d'une marque, mais elles investissent tous dedans. Hein? C'est-à-dire que les marques se mettent toutes maintenant à créer leur chaîne de télé, et pas seulement les marques, les associations. Hein? On parlait des optimistes, là, bon, c'est une forme de média, quoi. Immédiatement, c'est immédiatement un média. Quoi. Bon. Donc, évidemment, pour aller au bout de ce raisonnement-là, elles essayent de devenir des médias, les marques, et pas seulement des labels marchands d'un point de vue artisanal, labellisent la qualité du produit, d'un point de vue industriel, labellisent le rapport qualité-prix, etc. Désormais, elles essayent d'aller directement dans la production de contenu. Oui.
Non, mais c'est un processus de légitimation. C'est-à-dire qu'au fond, elles ont compris que ce processus de tagage, d'évaluation collective, intercroisée, interactif, est la source de la chose, si vous voulez, comme en démocratie, le vote démocratique, l'opinion du plus grand nombre sur un sujet à un moment donné, est la source de légitimité. Donc elle cherche à construire quelque chose qui soit un processus de légitimation si elles ne l'ont pas déjà, parce qu'elles peuvent gérer les légitimités existantes. Et là, c'est surtout de ne pas faire de conneries.
Pour vous répondre directement, si vous voulez, elle passe de la question de la légitimité à la question de la légitimation.
Voilà. Quels sont les procédés par lesquels on arrive à mimer. Ce qui n'est pas tout à fait pareil. Mimer, c'est pour ça que la question du mimétisme est tellement importante. On arrive à laisser supposer, par exemple, au consommateur qu'il est producteur, qu'il est prosumeur, qu'il contribue. Donc, on va lui dire, au fond, mais c'est un béaba que les marques vraiment qui s'attachaient à une clientèle depuis longtemps avaient compris, c'est-à-dire de valoriser le client au sens que le client ait la considération et le sentiment qu'il est littéralement un stakeholder. Hein, c'est comme si, alors que c'est lui qui donne de l'argent, il a l'impression que c'est lui qui participe à la chose. Donc ça, c'est les astuces et c'est d'autant plus possible que l'interactivité numérique, elle, montre que c'est une réalité. C'est-à-dire qu'en réalité, du point de vue numérique formel, ce qui se passe bien quand il y a création de réseau, vous apportez quelque chose, non seulement votre contribution personnelle à la chose, mais vous apportez quelque chose au réseau global, vous l'enrichissez, et donc plus une firme aura des clients nombreux et qu'elle saura valoriser, plus sa valeur globale va monter. Donc c'est ça, à mon avis. Alors maintenant, sur l'action, les leviers d'action sur les externalités, c'est clair que vous voyez bien que comme ça se passe aussi à l'extérieur de la firme, que beaucoup de choses, la firme en pointillé, ben, ça veut dire qu'elle est poreuse, c'est-à-dire que ça rentre et que ça sort des deux côtés. Externalisation, internalisation, c'est un double mouvement. Elle dépend fantastiquement de ce qui se passe sur le territoire. C'est-à-dire que sur le territoire, l'intervention publique, le changement, par exemple le déclin, l'épuisement de certaines externalités positives, les territoires par exemple qui ont beaucoup tiré sur la coalescence du RCAIM, c'est-à-dire le fait qu'il y a des solidarités, il y a des groupes, des choses qui existent, qui tiennent à la famille, à l'histoire, à une certaine petite et moyenne industrie qui existait, qui tiennent au mode ancien. Par exemple, les industries se sont bien implantées dans les endroits où il y a une tradition de petite agriculture polyvalente paysanne. Par exemple, d'Oporto au Portugal, pas mal de plaines flamandes, c'est parce qu'il y avait de la petite industrie polyvalente
de l'activité paysanne polyvalente. Là, ça a marché merveilleusement. Quand vous avez de l'élevage agricole et des salariés agricoles, où vous avez des pasteurs, et quand vous avez des industries monomaniaques ou monomachins, comme ça a été tellement le cas dans le nord de la France, les mines, et bien c'est très clair, quand cette industrie-là se casse la gueule, tout se casse la gueule. Parce qu'il n'y a rien comme tissu, si vous voulez, qui a réagi. Donc ça, ces éléments-là, ce sont des éléments. Et la puissance publique peut intervenir dessus. Qu'est-ce qu'a fait la puissance publique dans le Nord? Une des premières choses qu'elle a faites avec l'effondrement des mines, c'est qu'elle a commencé à s'apercevoir que c'était une des régions les plus sous-développées de France du point de vue des écoles, des universités, etc. C'est-à-dire qu'il a fallu créer des écoles, des universités, en tout simplement parce qu'il y a un niveau d'alphabétisation de la population qui était très faible. Autrement dit, l'industrialisation avait abruti, avait affaibli le niveau d'éducation de la population. Et ce n'est pas d'ailleurs lié à la performance industrielle. Hein. Comme disait le recteur de l'Académie de Séville il y a longtemps, enfin de l'Université de Séville, il disait qu'est-ce que nous produisons nous? Nous produisons des docteurs, nous produisons du capital humain. Ça fait très longtemps que les zones dites sous-développées de la France, de l'Europe, produisent en fait du capital humain, donc produisent des éléments qui ensuite sont valorisés ailleurs que dans l'endroit où ils ont été produits. Donc là, il y a une incidence énorme des politiques publiques sur la production des externalités. Elles peuvent les épuiser, elles peuvent réagir contre les prédateurs, elles peuvent avoir une politique, si vous voulez, qui soit une politique de préservation d'un milieu complexe, de la biodiversité culturelle, j'ai envie de dire, de la bioactivité culturelle, ou de la bioactivité industrielle, ou de la bioactivité tout court, c'est-à-dire de quelque chose qui est vivant, qui est multiple, et qui n'est pas sérialisé, simple et terriblement fragile, par exemple à des conditions d'exposition au marché international, par exemple à une monoproduction, etc. Donc ça, c'est les foncteurs. Il y a des choses qui agissent sur ces dispositifs. C'est pas une chose de la même façon qu'on peut renverser par l'intervention publique des dégradations, enfin, des externalités négatives. Par exemple, si vous luttez contre l'érosion en replantant des arbres, c'est clair que vous luttez contre les inondations, contre plein de trucs, et ça dépend des investissements que vous faites dans le sujet. Donc vraiment, c'est des politiques publiques. Alors on est en train de parler des politiques publiques.
Et qui demande pour le coup un changement de perception de la part du public, enfin, de la part des entreprises et du secteur de l'administration, qu'effectivement, ces externalités ont un rôle fondamental.
Oui.
Alors qu'elles sont justement, par l'idéologie même de production capitaliste qu'on a aujourd'hui, complètement
liées. C'est-à-dire que le tout marché, vous voyez bien que si vous dites que tout est marché, que tout passe par le marché, et que ce qui n'est pas dans le marché n'existe pas, vous aboutissez à une position typiquement d'une administration kafkaïenne qui va dire c'est pas dans le marché, il ne connaît pas. Bon, mais réciproquement, vous avez des énormités qui se passent actuellement, je peux vous dire, sur c'est pas dans Google, ça n'existe pas. Ce qui est aussi une autre forme de crétinisme achevé. Bon, mais c'est clair que là, ce renversement de pondération, c'est-à-dire l'iceberg, de considérer que l'économie marchande, dans toute sa complexité, Dieu sait si elle est complexe, c'est rien à côté de la base émergée de l'iceberg sur laquelle elle repose et sur laquelle elle flotte quand même. Hein. Ben, ça suppose effectivement une compréhension du rôle des politiques publiques, des investissements qu'il faut faire, de surveiller des choses qui peuvent être, qui sont fragiles.
Puisque monsieur posait la question tout à l'heure, vous disiez, ramasser le propos, de quoi on parle, quoi. Je comprends pas de quoi on parle. Bon. On parle d'une seule chose, quoi. En fait, on parle de quoi? De dire, en fait, faut tirer toutes les conséquences du fait que la valeur se forme davantage dans la circulation que dans la réification ou
la production
substantielle.
La production matérielle, entendons-nous, parce que même la pollinisation, c'est un fait très matériel.
Oui, oui.
C'est un fait très matériel, mais c'est simplement un fait qui n'entre pas dans la vision ou la lunette de décryptage. C'est comme si on était dans l'économie marchande avec une économie qui ne perçoit que des choses qui sont dans une certaine fréquence et qu'il y a des choses qui n'apparaissent pas dès qu'elles sortent de ça.
Voyez les conséquences fiscales que ça pourrait avoir. Alors Yann, il travaille un peu là-dessus, parce que du coup, si vous voulez, ça se rapproche. Alors, ce qui est popularisé dans le débat public sous le nom de taxe Tobin, hein, mais en un sens plus fin, c'est la question de la taxation de partout où ça circule davantage que la taxation en stock, hein, sachant que ce n'est pas des modèles irréalistes, moi, à mon avis, parce que dans la consommation courante, c'est déjà très largement le cas, en fait. Mais je vous donne un exemple hyper bête. voyez la rapidité avec laquelle on s'est tous habitués au fait que quand on achète du transport, c'est-à-dire du train par exemple, ou de l'avion, pendant longtemps on l'achetait au nombre de kilomètres parcourus, c'est-à-dire les prix étaient relativement fixes et comparables, et puis tout d'un coup les entreprises se sont mises à nous imposer leur propre yield management, comme elles disent, hein, c'est-à-dire une inversion complète de la constitution du prix. Et on le sait tous désormais, ça paraît tout à fait banal, mais on l'a intégré tout de suite, de payer du 1 au quintuple pour le prix d'un billet d'avion, pour le prix même d'un billet de train. Hein. Remettez-vous, il y a 20 ans, c'était pas du tout, on n'était pas du tout, c'était pas du tout normal, ça. Bon. Mais, donc, pourquoi je prends cet exemple-là, de la rapidité avec laquelle la fixation des prix dans le transport, par exemple, grand public, s'est faite. Parce que je trouve que c'est un argument de poids, en termes de. Sur les questions fiscales, par exemple. Hein, parce qu'il y a des tas de gens qui disent que c'est irréaliste de se dire qu'il faut passer d'une taxation de la marchandise et de la valeur ajoutée incorporée à une taxation de la circulation. Des tas de gens qui disent que c'est irréaliste. J'idéalise des choses. Bon. Mais oui et non, parce que, vous voyez, par exemple, dans quelque chose qui est quand même pas anodin, qui est les transports en commun, en fait, on est complètement passé dans un système de ce type. Et on s'en est même pas rendu compte. Hein.
La valeur d'un bien information, c'est la valeur de la circulation aussi. C'est le nombre d'usages, c'est le fait que ça repasse par de multiples usages qui l'enrichissent. Donc il est clair que si on est dans une économie où circulation, c'est une énorme partie de la valeur, c'est ça la matérialisation paradoxale des choses, à ce moment-là, on a une crise redoutable des ciseaux fiscaux dans lequel se débattent la droite, la gauche. Et la chose suivante, on n'a pas, dans une économie interactive complexe, en fait, l'intervention de la puissance publique requise pour la production de ce qu'on appelle la qualité de la population, notre fameux... le capital humain, la qualité des interrelations, la qualité de la coopération, la qualité de la confiance, tout ça, ça fait partie au fond de ce qui est aggloméré dans tous les produits, le moindre produit industriel. Vous savez que la Chine, par exemple, son problème, c'est qu'elle arrive à produire tout ce qu'on fait en électronique et en informatique dans les 3 mois, elle peut produire tout ce que vous voulez en 3 mois. Ce qui pour le cycle d'information, d'informatique qui est de 3 ans, déjà pas mal. Sauf que de l'aveu même des compagnies qui font ça, elles vous disent ce qu'on est incapable de faire, c'est de produire des produits innovants qui n'ont pas déjà été inventés. Parce que ça incorpore un système de la société d'ensemble qui est probablement fortement incompatible avec la phase encore très autoritaire dans laquelle fonctionne la Chine. Et on la voit, c'est-à-dire que la Chine est prête à se couper de Google. Pour des raisons de contrôle et de censure absurdes, enfin très très violentes, il y a des problèmes, mais la chose est très simple, vous avez le tiers des utilisateurs chinois de Google pour qui c'est un instrument de travail fondamental, qui ont dit, nous, ça va nous couler. Et c'est les universitaires, les chercheurs, les start-up, tout ça, ils savent que ça va coûter en arriération chinoise considérablement. Donc, j'ai l'impression que, si vous voulez, toute cette utilisation le rôle des politiques publiques dans la production de ça, et dans l'incorporation de tout ça, et bien c'est ce qui définit le caractère innovant ou pas innovant d'une économie. C'est ce qui définit sa capacité, l'endroit où elle se place dans la gradation internationale. Et ça n'a pas à voir simplement... Par exemple, l'incorporation, c'est ce qu'on appelle le local, du local... d'un local réel, authentique, interconnecté, etc., qui peut être d'ailleurs moderniste ou traditionnel, on s'en fout. Mais dans la production, c'est un élément. C'est un élément de singularisation. C'est un élément qui fait qu'on la reconnaît. Donc, et ça peut être n'importe quoi. C'est, par exemple, Avignon, je dis toujours, Avignon est une ville comme il y en a 250 en Europe et qui ne mérite rien. C'est-à-dire que vous retirez le festival d'Avignon, c'est même pas le Palais des Papes qui la sauve. Il y a 25 châteaux en Italie ou en Espagne qui sont bien plus beaux que là. C'est le Festival d'Avignon, c'est-à-dire c'est le rassemblement du Ligne, du Off pendant 15 jours, 3 semaines qui fait qu'Avignon est connu dans le monde entier. Et toutes les villes essayent de se faire connaître maintenant comme ça parce que c'est donc pas lié à un patrimoine
matériel monumental, c'est lié à un patrimoine immatériel de connexion et de connectique, qui est un phénomène bien réel, parce que les intermittents, les unes et les autres, ils sont bien là, et les troupes de théâtre sont bien là pendant 3 semaines dans la vie. Ils sont posés là, et c'est ça qui constitue le ferment.
Est-ce que vous pouvez poser la question de la capture de la valeur dans ce prélisme de connectique? Vous dites qu'il y a de la valeur qui se forme dans la circulation. Comment ça se fait que la mère parvienne à en faire quelque chose? Comment ça se fait que Wikipédia n'est pas un modèle inventaire? Comment ça se fait que Apple est parvenu à vendre des morceaux de musique là où les musiciens de
l'Occident? C'est la compréhension.
Et alors, est-ce que Facebook est inventaire en tant que tel? Et finalement, si vous avez des exemples petits, parce qu'il y a Facebook et Google et autres,
les modèles rentables, en fait, vous voyez bien, je suis désolé d'être aussi basique, mais ils sont au barycentre du triangle. Mais le fait de dire ça, c'est déjà quand même une nouveauté. Vous voyez, parce que d'habitude, la question de la rentabilité, on
était là-haut, beaucoup
là-haut. Et désormais, au milieu, là. C'est-à-dire, évidemment, il faut les trois choses.
Et il faut quand même les trois. C'est-à-dire, si vous n'avez que l'angle du haut, c'est-à-dire, pour reprendre un peu la discussion qu'on avait, hein, c'est-à-dire, si ça ne s'adapte pas, à mon avis, à ce dont vous parliez précisément. Hein, alors, peut-être. Non, mais peut-être. Je ne sais pas vraiment, je ne connais pas bien. Mais. Ce que je veux dire, c'est que si on pose la question uniquement du point de vue de la seule légitimité, vous voyez, c'est comme si on regardait l'ensemble du triangle uniquement par ce point de vue-là, quoi. Mais il faut avoir les deux autres.
Et il faut capter surtout les deux autres. Et la captation, vous voyez bien que les entreprises arrivent à capter des externalités positives, elles peuvent le faire de façon intuitive, elles peuvent le faire de façon raisonnée. C'est évident que si elles ne comprennent pas ce que c'est qu'une externalité positive, elles peuvent aller se coucher. Moi, je pense que les entreprises sont définies aujourd'hui comme captatrices d'externalités positives. Et que les entreprises qui réussissent le mieux, et c'est une évidence, quasiment une lapalissade, elles vont avoir évidemment des ratios de performances financières d'autant plus fortes qu'elles captent des externalités positives, forcément, puisqu'en termes de comptabilité privée, elles captent des choses qu'elles ne payent pas. Elles captent des inputs qu'elles n'ont pas à payer commercialement. Donc évidemment, elles vont avoir dans un output, par rapport à ce qu'elles payent comme input commerciaux, il va sembler qu'il y a une productivité phénoménale. Simplement, dans l'imputabilité de la productivité, on a une forte partie d'externalités positives qui ne leur sont pas attribuables à elles propres, mais qui sont attribuables au halo qui les entoure, à des convergences futures qui sont anticipées par les financiers, à des convergences des complémentarités territoriales ou partenariales qui n'apparaissent pas dans les comptes, notamment patrimoniaux de la firme. Donc, si vous voulez, la captation d'externalités positives, c'est... Alors, après, on peut capter des externalités positives comme un chasseur, on vient en néolithique de ce point de vue-là. On peut le capter intelligemment, c'est-à-dire en prélevant sur le milieu, tout en sachant que si on prend tout, et qu'on pille, il n'y aura plus de renouvellement. C'est-à-dire qu'il faut avoir une attitude synergétique par rapport aux externalités, ou une attitude environnementale ou écologique. Vous savez que vous pouvez prélever de l'eau potable, tant de milliards de litres, mais vous savez que si vous prélevez cette eau et que vous la salopez, au bout d'un moment, l'eau que vous allez prélever va à son tour être salopée. C'est le problème de la Chine en ce moment. Donc il y a une gestion de ces externalités. Il y a une gestion de l'endroit de la firme. Ça, c'est très intéressant parce que avant on avait tendance à dire ce qui est dans la firme, je connais, c'est clôturé, je gère, je suis boss. D'ailleurs, camembert pour les gens qui viennent de l'extérieur. Le reste, c'est la puissance publique, je m'en fous, j'ai payé mes impôts, elle fait son boulot. À partir du moment où vous avez les ressources que vous avez dans le territoire, vous devenez responsable par rapport à ce territoire. Vous êtes non seulement mécène, vous êtes acteur, vous êtes présent dans la société civile, vous êtes présent dans la politique et tout, mais vous avez des responsabilités quant à la gestion délirante ou au contraire raisonnable ou rationnelle des trucs. Et ça fait une responsabilité qui est compliquée, parce que d'un certain point de vue, vous êtes obligé, vous, si vous êtes manager, d'expliquer à vos actionnaires qui regardent simplement le résultat financier, de leur dire, oui, mais vous comprenez, il y a des choses qu'on a, des charges qui ne sont pas strictement liées à notre... Alors qu'est-ce que vous faites en général ? Vous passez ça dans le budget de publicité, vous passez ça dans le budget du prestige de l'entreprise. Mais vous n'arrivez pas à mettre un nom en disant qu'il y a telle et telle externalité positive. Parce qu'à ce moment-là, on peut aussi vous dire, mais alors pourquoi vous ne les internalisez pas? Alors vous allez dire que ça coûterait trop cher. Ou vous allez dire parce qu'on ne peut pas contrôler. Pourquoi actuellement le problème des bonus dans la finance, à quoi il tient? Il tient au fait que les gens qui sont dans les salles de marché par rapport aux banques de dépôt classiques détiennent des connaissances, qui sont des connaissances, et là il y a eu des études extrêmement fines que je cite dans mon dernier livre, là qui va paraître, ils détiennent des connaissances qui sont des connaissances de réseaux qui n'appartiennent pas à la firme. C'est-à-dire qu'ils ont des réseaux, ils se passent des tuyaux entre les uns et les autres, qui sont, parce qu'ils sont à marché, ils changent de grande banque et tout, et l'entreprise est incapable d'avoir le rapport classique qu'elle a avec un salarié. Un salarié, on le contrôle, il a son salaire, et en échange de quoi, il a sa prestation et tout ce qu'il fait.
Et il a un niveau de substituabilité assez élevé.
Et là, relativement ce sont des gens qui sont insubstituables et qui sont détenteurs de choses qui sont à moitié à l'entreprise, à moitié pas à l'entreprise. D'où d'ailleurs l'histoire des stock options. Ça s'est traduit par le fait que la forme de rémunération salariale ne marche plus. C'est-à-dire qu'elle n'est plus pertinente. Donc dans la réaction des gens à maintenir le système des bonus et des primes, bien sûr, il y a de la mauvaise foi, de la tentative de motiver, et il y a les trucs hiérarchiques de l'ensemble de la gestion de la main-d'œuvre, d'ensemble, y compris l'agent de la banque de dépôt qui est considéré comme n'apportant pas énormément au cash flow de l'entreprise et de la banque, mais il y a aussi le fait que si on a un problème de gouvernementalité de ces gens. Et la gouvernementalité, moi je l'avais dit par défaut, quand vous avez un truc sur ordinateur, un système par défaut, des externalités, c'est la finance. C'est-à-dire que c'est la finance qui gère la gestion de ce truc extrêmement compliqué qui est hors la firme, qui est à moitié un pied en dehors de la firme, ou qui découvre des ressources internes de la firme qui ne sont pas visibles à un diagnostic immédiat. D'où ces histoires de comparabilité, de paramètres, de scission. Et pourquoi la finance n'arrête pas de dire aux entreprises « Vous êtes trop gros, invisible, coupez-vous en morceaux » ou après, quand les gens sont coupés en morceaux, elle leur dit « Regroupez-vous ». Et c'est vrai aussi bien pour les évaluateurs des laboratoires publics qui n'arrêtent pas de leur dire « Coupez-vous en morceaux, rassemblez-vous, on n'arrive pas à comprendre, faites apparaître vos trucs, pourquoi tel truc est nécessaire, pourquoi telle chose ne l'est pas, faites apparaître des centres de profit analytiques pour qu'on voit les contributions des uns et des autres alors qu'on ne les voit pas, on ne comprend rien ». Etc, etc. Vous voyez, c'est ça, c'est-à-dire que la finance a une corrélation étroite avec cette montée en puissance des externalités. Voilà, je crois qu'il faut qu'on s'arrête.
Oui, parce que malheureusement, effectivement, ça arrête. Moi, je dirais que rien que pour les 5 dernières minutes, je trouve que c'était absolument génial. Je vous remercie parce que, en tout cas, moi, ce que je comprends au travers de tout ce que vous avez dit, c'est une chose fondamentale, c'est que au-delà de l'obligation morale ou éthique pour les entreprises de se soucier de leur environnement hein, pour des raisons écologiques, sociales ou autres, elles ont besoin de le faire pour une raison qui est purement stratégique et alors pour le coup purement de survie commerciale, qui est effectivement de capturer, comme vous l'avez si bien dit, les externalités positives. Ça, c'est, pour moi, c'est une grande intuition. Oui. Donc, tout grand
et merci. Monsieur disait de quoi on parle. Bon, moi, c'est juste en un mot. Mais en un mot, je voulais tout ce qu'on a raconté, c'est-à-dire que du point de vue des entreprises, on ne peut plus définir l'identité des entreprises depuis l'intérieur par leur patrimoine, leur identité, mais que ça devient uniquement un problème d'interface. Voilà. C'est ça qui définit l'identité.
Et pour le coup, ça, c'est vraiment une question philosophique.
Hein, merci. Voilà, bravo, merci beaucoup.
Et pour ceux qui sont intéressés, il y a le livre de Yann qui est en vente au prix de librairie. Voilà, merci à vous. Et donc, on se retrouve dans un mois pour le séminaire avec Christian Léonard sur la responsabilité dans les soins de santé en particulier.